Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un caillou dans la chaussure d'Édouard Philippe en vue de la présidentielle. Un juge d'instruction va enquêter sur des soupçons de détournement de fonds publics sur des contrats signés à la mairie du Havre. Patrick Bruel déprogrammé alors que les accusations de violences sexuelles s'accumulent. 3 de ses concerts prévus en décembre au Québec sont annulés. Mais à Paris, il fait sale comble. Et puis l'État et les industriels auraient dû réagir plus vite face aux laits infantiles contaminés. C'est ce que dénonce un rapport parlementaire.
C'est donc peut-être un premier obstacle dans la course à la présidentielle d'Édouard Philippe.
Un juge d'instruction va enquêter sur l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre pour des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Édouard Philippe assure qu'il répondra de façon très sereine. Il conteste les faits depuis l'ouverture de cette enquête par le Parquet national financier en 2024. Enquête sur des contrats signés dans sa ville, Pierre Bazin.
Oui, tout part d'un signalement effectué par une haut fonctionnaire de la communauté urbaine du Havre. En 2023, elle alerte les autorités judiciaires à propos d'un contrat qu'elle juge suspect entre la ville et une association de la commune censée gérer la cité numérique du Havre. Or, selon la plainte déposée, le contrat aurait profité à la présidente de cette association, qui est également conseillère communautaire et adjointe du maire du Havre, une proche donc d'Édouard Philippe. La lanceuse d'alerte accuse le candidat à la présidentielle d'avoir favorisé son adjointe avec un contrat de gestion affiché à plus de 2 millions d'euros. Ce signalement avait débouché en 2024 sur l'ouverture d'une enquête et mené à des perquisitions, notamment dans les bureaux d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, c'est donc un juge d'instruction qui doit se pencher sur tous ces éléments et éclairer plusieurs zones d'ombre pour savoir si le contrat en question a bien été attribué dans les règles.
Les premières annulations pour Patrick Bruel, 3 de ses concerts prévus en décembre au Québec sont annulés, annoncent les organisateurs qui évoquent le contexte actuel et l'impossibilité d'assurer la promotion. Le chanteur de 67 ans visé par au moins 12 plaintes pour viol et agression sexuelle et par une pétition pour demander l'annulation de sa tournée. Patrick Bruel, lui, nie les faits et il continue de se produire au théâtre Édouard VII à Paris. Amélie Courtet, malgré les accusations, c'était encore sale comble hier soir.
À la fin de la pièce, Patrick Bruel est applaudi, ovationné par une salle comble.
Je crois qu'il était très touché, il était très ému.
On est vraiment venu voir l'acteur ce soir et on a passé un bon moment.
Les plaintes et les témoignages de femmes contre le comédien s'accumulent, mais ça n'a pas dissuadé Béatrice de passer la porte du théâtre.
Pour l'instant, j'ai pas de raison de ne pas assister à la pièce tant qu'il n'a pas été entendu, tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice.
Elle ne comprend d'ailleurs pas l'annulation de 3 de ses concerts au Québec.
Je trouve que c'est un petit peu prématuré, c'est à la justice de trancher.
Beaucoup, comme elle, devant le théâtre, font valoir la présomption d'innocence. Suzette suit l'artiste depuis longtemps.
Je kiffe Patrick Bruel. J'ai pas réfléchi, j'avais mon billet et je comptais les jours et j'avais qu'une hâte, c'était d'être là. Je suis pas atteinte en fait, j'arrive pas à dire qu'il ait pu faire ça.
Plus loin, Thierry laisse lui deviner une petite gêne, le sourire crispé.
On a hésité à venir quand même.
Et vous êtes là ?
Alors on est là parce qu'on a pris les places en décembre, donc avant un petit peu toutes ces affaires et voilà.
Il se dit touché par ces accusations et concède qu'il n'aurait probablement pas acheté de billets s'il en avait eu connaissance à l'époque.
Le reportage d'Amélie Courtet. L'État et les industriels auraient dû mieux gérer la crise des laits infantiles. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire. Le scandale avait débuté en décembre avec le rappel de plusieurs lots de lait en poudre suspectés de contenir de la toxine céréulide, une toxine dangereuse pour les nourrissons. Victor Girard, c'est d'abord la réactivité des industriels qui est pointée du doigt.
Oui, Nestlé est accusé d'avoir tardé à informer les autres industriels et les autorités françaises de la présence de cette bactérie identifiée mi-décembre. Les deux députés s'interrogent aussi sur le choix d'avoir attendu le résultat des analyses plutôt que de rappeler d'emblée l'ensemble des lots possiblement contaminés. Autre cible, les autorités sanitaires jugées elles aussi trop lentes à réagir avec près d'un mois avant le déclenchement de l'alerte sanitaire. 14 recommandations sont ainsi proposées dans le rapport pour éviter qu'une telle crise des laits infantiles se reproduise.
Un renforcement des contrôles, renforcer la législation.
Michel Lozana est député Renaissance et l'un des deux rapporteurs.
Se rapprocher au moins de celle des médicaments, qui est beaucoup plus stricte sur les vaccins par exemple. Au moindre doute, on arrête la chaîne et on refait des analyses. Le lait infantile, pour le moment, c'est une législation purement alimentaire.
Les rapporteurs préconisent également de renforcer les critères de sélection des matières premières utilisées dans les laits infantiles et de rendre le site rappel conso plus lisible.
C'est un pas vers un commerce transatlantique équilibré, se félicite ce matin Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, alors que l'UE trouve un compromis sur les droits de douane. Le Conseil européen et le Parlement ont trouvé un terrain d'entente sur cet accord conclu avec les États-Unis l'été dernier. Donald Trump avait donné jusqu'au 4 juillet pour le ratifier. Le président américain qui participera bien au G7 à Évian en France au mois de juin, c'est la Maison-Blanche qui l'annonce après des semaines d'incertitude et d'insistance de la part d'Emmanuel Macron. Les dates avaient même été décalées d'un jour pour permettre au président américain de fêter son 80e anniversaire. On y reviendra bien sûr plus en longueur dans le journal de 8h. Il est 7h05 sur RMC, à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Arsenal savoure son titre de champion d'Angleterre. Cela fait 22 ans qu'ils l'attendaient, alors forcément les Gunners l'ont célébré hier soir depuis leur centre d'entraînement. Ils sont assurés du titre à un match de la fin du championnat grâce au match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth. Le plein de confiance évidemment avant d'affronter le PSG dans 10 jours. En tennis, Carlos Alcaraz déclare forfait pour Wimbledon à la fin du mois de juin. Son poignet n'est pas encore remis, le numéro 2 mondial qui avait déjà annoncé son forfait pour Roland-Garros, alors que les qualifications du tournoi battent en ce moment leur plein porte d'Auteuil, ça a commencé lundi. Eric Salio, des qualifications dans une sacrée ambiance.
Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Pour la petite somme de 35 euros, l'attraction numéro 1, c'est le cours Suzanne Lenglen, opérationnel pendant ses qualifs. Hier, Pierre Gerber a été porté vers la victoire dans une atmosphère de Coupe Davis.
C'est tout de suite l'ambiance de Roland-Garros et ça va durer pendant 3 semaines. On a vraiment de la chance d'avoir ce grand chelem à la maison et on en fait quelque chose de magnifique. Donc je suis assez fier de ce tournoi.
Certains fans préfèrent le cours 14 où Daniel Jatte, 17 ans, va revenir ce matin une deuxième fois.
Sur que le 14, c'est quand même un cours mythique ici à Roland. C'est une sorte d'arène un petit peu où il y a vraiment beaucoup de gens. Et c'est toujours rempli.
La troisième option, c'est de s'installer sur le cours central pour assister aux entraînements des stars. Hier, Valentin a pu observer l'homme au 24 grand chelem.
En plus, moi, j'ai jamais vu. Et Djoko, j'avoue, c'est le GOAT, quoi. Il est trop fort. Ce matin, j'ai regardé les entraînements et j'ai vu qu'il était à 17h. Bah, on aurait bien aimé avoir des places un peu plus proches, mais on est bien là. On va voir Djoko pendant une petite heure et demie, ça va être cool.
Depuis lundi, 40 000 spectateurs ont franchi les grilles de Roland-Garros et la boutique, au souvenir, ne désemplit pas.
Le reportage d'Éric Salio à Roland-Garros pour RMC.
C'était le journal de Clara Gaby et il est 7h07, on part au 32-16. Et vous êtes nombreux à nous appeler pour nous parler de l'état de l'hôpital. C'est votre cas, Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Sabrina, vous êtes ASH, c'est-à-dire aide-soignante en milieu hospitalier dans l'Allier, non?
ASH, je vous dis, c'est agent des services hospitaliers qualifiés.
D'accord. Alors, précisez-moi exactement quel est votre rôle.
Alors, c'est le petit personnel qui s'occupe. Bah, de, alors, nous, on remplace tout le monde. Hein, je suis partie de l'hôpital de l'Allier.
Ouais.
Et là, je vais être mise en retraite anticipée.
D'accord.
Parce que j'ai eu un gros accident du travail. D'accord. Et qu'on ne veut plus me prendre. Donc, ça fait 20 ans moi, que je travaille à l'hôpital de Vichy.
Ouais.
Et franchement, je suis écœurée parce que nous sommes maltraités. Alors, nous, on se sert de nous. Ouais. Nous, on remplace les aides-soignants dans les services.
Quand vous dites on remplace tout le monde, ça veut dire quoi, ouais, en effet?
Ah ben, moi, franchement, en 20 ans de carrière, j'ai fait de la stérilisation. Je suis passée par tous les services de l'hôpital. Il n'y en a pas un que j'ai pas fait.
J'ai et fait donc, vous avez vu absolument partout que ça craque?
Ah oui, ça craque. Et puis en plus, on maltraite les patients. Ça s'appelle de la maltraitance parce qu'on n'a plus le temps. Nous, on a fait passer des agents en 12 heures. Enfin, les aides-soignants et les infirmiers, pas les ASH. Nous, on nous a réduit les heures. On est à 7 heures. Parce que comme ça justifie qu'ils passent en 12 heures. Sauf que les aides-soignants, ils n'ont pas le temps et puis ils n'ont pas l'envie aussi de faire le ménage. Donc en fait, on a moins de temps et on doit faire plus.
Vous avez moins de temps, vous devez faire plus et en même temps, vous allez être mise à la retraite. J'ai un petit peu du mal à comprendre dans un moment où on nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel.
Ah, mais vous savez pourquoi? Parce que je leur reviens trop cher et qu'ils ne veulent pas me reclasser. Alors qu'ils pourraient, parce que je pourrais très
donc
bien.
Donc en fait, il y a des histoires de statut. Vous vous retrouvez finalement si on vous donnait effectivement un autre statut, vous coûteriez plus cher et en même temps, vous faites tous les boulots.
Voilà. Parce que moi, j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait faisant fonction et soignante payée en tant qu'ASH. Bien sûr. Voyons.
Aujourd'hui, vous quittez l'hôpital avec quand même du regret ou avec de l'amertume?
Ah, oui. Parce que c'était franchement ma passion. Et en fait, j'ai vu que le système de santé, c'est le plus inhumain au monde.
Le plus inhumain au monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous y allez la boule au ventre.
Ah, carrément. Et puis moi, vous voyez, au bout de 20 ans, on vous jette. Vous faites ça pour parce que moi, j'avais beaucoup de choses à donner. Et en fait, à chaque fois, on nous jette. Par contre, des cadres, ça, on en a. Et puis, diviser pour mieux régner, je crois que c'est la politique de l'hôpital.
Sabrina, je suis désolée d'entendre votre détresse, mais effectivement, c'est tout un système qui est très complexe avec, comme vous le disiez, des pyramides, des hiérarchies, des coûts qui sont pas forcément bien installés. Il y a une enquête qui a duré 2 ans, qui a été menée par ce journaliste du Parisien qui va venir nous la raconter à 7h40. Ne le manquez pas, vous Sabrina, mais aussi les autres. Sa conclusion, elle est effectivement claire. L'hôpital public est en crise aiguë, urgence vitale. Pourquoi l'hôpital public craque? Ce sera donc à 7h40. Courage Sabrina, il est 7h10. 3000 emplois qui ne verront pas le jour et un investissement d'1,5 milliard annulé tout bonnement. C'est un projet de giga usine de panneaux solaires qui a donc été abandonné à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jules Nissen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Nous payons cash les décisions, les indécisions justement du gouvernement. Voilà votre parti pris, vous nous le direz dans un instant.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et RMC Story. C'était un gigantesque projet qui devait relancer une filière et l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, une méga-usine de panneaux solaires à Fos-sur-Mer. Et elle ne verra finalement pas le jour, c'est ce qu'a annoncé l'entreprise française Carbone hier. Bonjour Jules Nissen.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être sur RMC ce matin. 3000 emplois directs perdus, 1,5 milliard d'investissements qui ne se feront pas. Pour vous, ce projet, il paye l'indécision de la politique énergétique française et de la politique industrielle européenne.
Oui, c'est vraiment ces deux dimensions. Je vais peut-être commencer par la dimension européenne, parce que la France a quand même essayé de soutenir l'idée de réindustrialiser des filières à partir d'une notion qui est le « made in Europe », le fabriqué en Europe, avec une approche territoriale. Un produit fait en Europe, c'est un produit qui est fait sur le territoire de l'Union européenne. C'est le combat qu'a mené Stéphane Séjourné auprès de la Commission, mais la proposition qu'a mis la Commission sur la table, c'est une proposition finalement d'accord industriel qui inclut dans la zone géographique aussi des pays qui ont un accord commercial avec l'Union européenne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir l'appellation Made in Europe
sur un produit fabriqué au Vietnam, oui.
Sur un produit fabriqué au Vietnam.
Ça peut paraître assez étonnant, mais c'est comme ça. Je pense que l'idée est de préserver un peu de libre échange et de pas complètement fermer.
Ça veut dire quoi? Attendez.
Ça veut dire
les pays avec lesquels on a un accord de libre échange peuvent être considérés comme du Made in Europe?
Je pense que l'appellation Made in Europe, c'est une concession qui a été faite à la France. Ça s'appelle objectivement pas du Made in Europe comme ça. Alors pour l'instant, c'est pas une décision qui a été adoptée finalement par l'Union européenne, mais c'est la proposition qui a été mise sur la table.
Ça montre l'état d'esprit.
Ça montre l'état d'esprit qui signifie qu'on veut pas complètement fermer, qu'on a du mal en Europe à faire ce que font malheureusement les autres grandes zones économiques du monde, c'est-à-dire dans un certain nombre de filières considérées comme stratégiques, de dire la priorité, c'est de réserver les marchés publics et les commandes publiques finalement à des productions qui sont sur le territoire européen.
Vous me dites même, il faut du protectionnisme. Les États-Unis le font, la Chine le fait, on est les dindons de la farce.
Oui, moi je le regrette un peu parce que le système précédent avait aussi ses avantages, mais aujourd'hui on vit dans un monde où la vocation des forts est de dévorer les faibles. Et je pense pas que l'Union européenne, qui est un des plus grands marchés économiques du monde, ait la vocation d'être faible. La difficulté, c'est qu'elle est composée d'une mosaïque d'États qui ont des intérêts parfois divergents, et on voit bien qu'il y a une grande difficulté à assumer maintenant une politique industrielle qui vient à l'intérieur des frontières, même si ça progresse quand même petit à petit.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé à Fos-sur-Mer pour vous est le symptôme, effectivement, de cette incapacité à prendre des décisions en fonction aussi de ce qui se passe désormais dans le monde? Parce que vous le dites, c'était pas forcément souhaitable ce protectionnisme, mais quitte à ce que les autres le fassent, on ne peut pas se retrouver à être ceux qui sont mangés.
Je pense que c'est dangereux. Alors, les panneaux solaires qui représentent quand même la filière énergétique de demain, ils sont aujourd'hui produits en une très grande majorité en Chine, plus de 80%. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut, en Europe, reconstruire une filière de panneaux solaires? Pas forcément pour servir toute la demande, mais au moins pour être capable d'avoir une base de sécurité au cas où il y a une difficulté. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'époque du Covid avec le Doliprane, par exemple. Donc, pour faire ça, pour que des entreprises qui n'ont pas le savoir-faire aujourd'hui puissent se développer, bien, il faut bien qu'elles bénéficient d'un marché protégé pendant un certain temps. Et puis ensuite, la concurrence fonctionnera, il n'y aura pas de sujet. Et c'est ça qu'il faut assumer de vouloir faire. C'est d'ailleurs les réflexions en cours sur les batteries, sur l'automobile, et puis sur les panneaux solaires. J'ai l'impression parfois qu'à Bruxelles, on ne considère pas que c'est particulièrement stratégique de ré-européaniser la filière par rapport à un autre argument qui est celui de la compétitivité de l'énergie et donc essayer d'avoir les panneaux les moins chers possibles. C'est ça qu'on paye aujourd'hui.
Il y a un mot pourtant que les politiques ont souvent à la bouche désormais, et d'ailleurs ça dépasse tous les clivages, c'est le mot de souveraineté. On nous parle de souveraineté alimentaire, on nous parle de souveraineté en matière de santé, vous venez de mentionner le Doliprane et la vente effectivement d'une partie de Sanofi. La souveraineté industriel aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est un combat perdu ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un combat indispensable. Et moi, je voudrais quand même souligner que le gouvernement français, et ça depuis longtemps, je sais que vous interrogerez Bruno Le Maire tout à l'heure.
Exactement,
il a été un porteur de cette politique. Et moi, j'ai rien à dire à ça. La difficulté, c'est que c'est compliqué de faire une politique industrielle à l'échelle de la seule France, dans la mesure où il y a des règlements liés au droit de la concurrence qui sont établis à l'échelle européenne. Donc, il faut qu'on gagne cette bataille à l'échelle de l'Union européenne. Après, la question des panneaux solaires, c'est un sujet un peu spécifique. Mais je regrette qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage.
C'est fichu. Foutu.
Moi, je suis pas à la place de Pierre-Emmanuel Martin, que je tiens à saluer.
Il était à la tête de l'entreprise.
La décision qu'il a dû prendre est vraiment difficile parce que il a fait ça avec un esprit d'entreprise. Dans un pays où on regrette parfois qu'on soit pas suffisamment industriel, il a misé beaucoup d'argent personnel, il a réuni des investisseurs pour faire ça. C'est un projet très territorial aussi, sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer, très soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par son président Renaud Muselier. Et voilà, il y avait beaucoup de dynamique derrière. Bon, finalement, ça fonctionne pas parce que au fond, le porteur de projet maîtrise pas tous les paramètres. Et donc, notamment, cet enjeu européen fait que finalement, les actionnaires qui ont dû se poser la question de se dire, mais si finalement, moi, je peux utiliser dans un appel d'offres public des panneaux qui sont fabriqués au Vietnam ou en Inde.
Pourquoi est-ce que j'irais choisir?
Ça existe déjà. Pourquoi est-ce que je viendrais en faire ici? Donc ça, c'est un premier mauvais coup. Et après, il y en a un second. C'est que pour pouvoir vendre des panneaux solaires, il faut qu'il y ait des gens qui installent des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires. Et en premier lieu, dans le pays où l'usine va s'installer. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, on tombe sur les aléas de la politique énergétique française. On a eu 5 ministres en 4 ans. Et c'est compliqué d'avoir une politique qui essaie d'être un peu...
C'est difficile de planifier quand on...
C'est très difficile. Alors, Sébastien Lecornu a décidé de publier une programmation pluriannuelle de l'énergie. Je salue cette décision, mais c'est avec 2 ans de retard. Alors, c'est pas sa faute à lui, puisqu'il n'était pas aux affaires avant. Mais comment vous voulez avoir une politique énergétique un peu structurée avec ça? Et du coup, une politique industrielle derrière qui est la conséquence de cette politique énergétique.
Merci. Merci de votre alerte que vous lancez ce matin, Jules Nissen. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être venu sur RMC ce matin.
Merci.
Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Dans les rues de Rio, des Brésiliens qui ont célébré la sélection de la star Neymar pour la Coupe du Monde.
Oui, l'affaire a pris une tournure exceptionnelle dans ce pays dingue de foot. Et figurez-vous, Apolline, que même le président brésilien s'en est mêlé.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y a Arnaud Demanche aussi qui arrive pour pirater l'interview du face-à-face. Ce sera Bruno Le Maire, vous l'avez entendu. Ne bougez pas, il est 7h21, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sûr à RMC. C'est l'heure d'Arthur Chevalier, de remonter le temps avec notre historien préféré. Arthur, des journalistes qui applaudissent, une foule en liesse. Lundi soir, le sélectionneur du Brésil a annoncé que l'ancien joueur du PSG, Neymar, ira bien à la Coupe du Monde avec son pays.
Oui, et ça n'avait rien d'une évidence, Apolline, puisque le joueur de 34 ans enchaîne les pépins physiques. Il est très loin d'être au meilleur de sa forme. Alors Ancelotti a quand même décidé de le sélectionner. Une décision qui a donc provoqué des scènes de liesse au Brésil. Et avant même l'annonce de la sélection, le président Lula s'en était mêlé directement. Ancelotti lui avait demandé s'il devait prendre Neymar. Le président lui avait répondu, je cite, « S'il est prêt physiquement, il a le niveau pour ça. »
Oh, d'un autre côté, au Brésil, le football, c'est plus qu'un sport, hein. C'est de la politique.
Et oui, et ça l'a toujours été. Pour le pire comme pour le meilleur, le foot arrive au Brésil à la fin du 19e siècle grâce à des immigrés britanniques. Et alors, à l'origine, c'était un sport pour les riches, hein, un sport très élitiste, le football. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'au début du 20e siècle, la société brésilienne était mais terriblement raciste. C'était une des pires du monde. Seuls les Blancs avait le droit de jouer au foot. Il faut attendre la fin des années 1910 pour qu'un club accepte les Noirs et les pauvres dans son effectif. Ce club, c'est Vasco de Gama, un club de Rio qui existe encore aujourd'hui. C'était une révolution.
Il y a certains joueurs qui allaient même jusqu'à tenter de se blanchir la peau.
Ah, et c'est complètement dingue. Dans les années 1920, la pression raciste était tellement forte que certains joueurs se mettaient de la poudre de riz sur le visage avant d'entrer en jeu pour avoir l'air blanc, tout simplement. Il faut attendre les premières Coupes du Monde remportées par le Brésil en 1958 et en 1962 pour que les mentalités évoluent. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont évolué? Eh bien parce qu'en fait, des joueurs noirs se sont illustrés pendant ces Coupes du Monde, notamment Pelé, hein, c'est le plus connu. C'est eux qui ont réconcilié cette société fracturée par le racisme.
Des clubs vont aussi agir directement pour la démocratie.
Et oui, puisque le Brésil, de 1964 à 1985, a été une dictature militaire, hein, et un club de foot va se dresser contre elle. Ce club, ce sont les Corinthians de Sao Paulo. Dans leur effectif, ils avaient la star brésilienne de l'époque, le milieu de terrain Socrates, hein, une légende. En 1980, les Corinthians adoptent un modèle d'autogestion, une démocratie footballistique. Toutes les décisions étaient prises collectivement, du jardinier au président, y compris pour le choix de l'entraîneur. Sur leur maillot, ils font aussi inscrire le mot « démocratie ». C'était évidemment une résistance passive à la dictature.
Pour le président brésilien, c'est très important d'avoir le soutien des footballeurs.
Et oui, c'est même décisif pour l'opinion. La bataille politique se joue aussi sur le terrain du foot. Par exemple, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui était très très à droite, avait été publiquement critiqué par des joueurs comme Rai, l'ancienne star du PSG, ou Juninho, l'ancien capitaine de l'OL. Au contraire, un des soutiens les plus actifs de l'ancien président Bolsonaro, eh bien, c'était justement Neymar, hein, dont il est question aujourd'hui, qui avait même fait campagne pour lui en 2022, en vain, puisque c'est finalement le candidat de gauche, Lula, qui a été élu et qui est au pouvoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ajoute que la prochaine élection aura lieu dans 6 mois au Brésil.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On accueille Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Salut Arnaud. Le face-à-face tout à l'heure, mon invité, c'est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, l'écrivain, l'homme de lettres, l'académicien. Et alors, attention, Apo, les amis, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle, mais Bruno Le Maire ne sera pas candidat à la présidentielle, alors que le journal du dimanche affirmait le contraire. Oh non ! Oh non, on avait tellement besoin de lui. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent qu'on a en trop? Tant pis. Il aurait eu un super slogan de campagne pourtant. Moi, j'en avais un qui était « C'est pas moi, c'est Macron ». Voilà. Un slogan qui peut servir aussi pour Gabriel Attal, Édouard Philippe,
oui,
Gérald Darmanin.
On peut le recycler. C'est pas moi, c'est Macron.
Allez, on va parler argent. Et alors, j'ai lu un truc génial. Les élèves de 4e à la rentrée prochaine auront des cours d'éducation financière. Ça va être super. Des boomers à 2 ans de la retraite vont leur expliquer qu'avec un peu de travail, on peut acheter une villa en 5 ans en étant prof.
Bon, les enfants, alors l'économie, c'est quoi? Bah moi, j'ai commencé comme stagiaire à la CPAM en 76. Et en 77, quand j'ai fini de payer la maison, et que j'avais terminé mes 2 ans d'année sabbatique à Katmandou, eh ben j'ai pas baissé les bras. J'ai continué à travailler parce que vous voulez pas bosser. C'est dur, mais oui, c'est dur. Évidemment, c'est dur. Vous croyez que je l'ai acheté comment, la deuxième maison à Arcachon? Eh ben, j'ai dû prendre un temps plein. Ça a été les 6 mois les plus longs de ma vie. Mais je me suis accroché. Et vous êtes là, il faut baisser les pensions de retraite. Non, il faut les augmenter. On a cotisé. Vous savez combien ça coûte à chauffer une piscine? Ben non, vous savez pas. Parce que vous vous intéressez à rien. Les pauvres mots. Quand je pense que les cours d'éducation... Non mais c'est... Ça fait tellement marrer notre génération. Je pense que, un peu moins certains de nos auditeurs, il va y avoir des trucs sur le fil actu, là. Quand je le truc que vous avez
le WhatsApp,
Mathieu, le WhatsApp d'RMC. Quand je pense que les cours d'éducation affective et sexuelle, ça avait déjà révolté à l'époque. Oui. C'est pas de leur âge. Les comptes épargne retraite, c'est de leur âge. On veut vraiment leur parler d'économie à un moment où leurs hormones sont en ébullition. Il faut pas faire ça. Regardez ce que ça a fait à Emmanuel Le Chypre. Oh, une comptable allemande. Non, on ne doit pas faire ça. Alors globalement, la situation économique n'est pas fameuse, hein. Hausse du chômage, inflation à 2%, faillite d'entreprise. En fait, Emmanuel Macron, on dirait un locataire en fin de bail. Il veut rendre la France exactement dans l'état où il l'a trouvé pour pouvoir récupérer sa caution. Voilà, je vous ai tout remis comme c'était, j'ai remis le chômage, j'ai laissé la retraite tout pareil, je vous ai même remis François Hollande à l'Élysée. C'est là que tu vois que Michael Jackson redevient à la mode. Hein. Macron, il finit tout son quinquennat en moonwalk, il recule sur tout. Je suis mauvais, mauvais, même en économie, je suis mauvais. Et rendez-vous avec Bruno Le Maire, ce sera à 8h30.
Du coup.
Pétante. À tout à l'heure.
Ce sera à 8h30. Allez, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. 7h28.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. C'est le jour J, les premières épreuves pour les bacs professionnels, moment choisi par le gouvernement pour annoncer son projet anti-triche, généraliser les détecteurs d'objets connectés. Emmanuel Moulin face aux accusations de copinage, ce proche d'Emmanuel Macron fait son grand oral devant les parlementaires en vue de sa nomination prochaine à la tête de la Banque de France. Autoritaire, violent et colérique, le portrait accablant dressé à son procès par ses propres enfants de Guillaume Buchy, accusé d'avoir violé et prostitué sa femme pendant 7 ans.
Le gouvernement veut renforcer la lutte contre la triche au bac.
Alors que les filières professionnelles planchent sur leurs premières épreuves aujourd'hui. Dans le viseur du ministre, les téléphones ou les tablettes utilisées comme anti-sèches connectées. Alors Édouard Geffray veut équiper aléatoirement certains centres d'examen de détecteurs. Ils font déjà partie de l'arsenal des surveillants par endroit. De quoi s'agit-il exactement, Louise Salé?
C'est un petit boîtier qui tient dans une main avec une antenne et des écouteurs. Dès qu'un objet connecté est repéré à proximité, il se met à sonner. Sylvie Pénicaud est proviseure dans le Var. Elle se sert de cet outil anti-fraude depuis 2 ans pour surveiller le bac afin de savoir si un smartphone ou une montre connectée est utilisée à 1 mètre de distance d'elle.
Nous en avons 2. Pour moi et l'adjointe, hein. Donc on passe dans tous les rangs avec. C'est hélas pas complètement satisfaisant. On a déjà eu le détecteur qui bipait, on a tourné autour des élèves, on a essayé de chercher dans une zone et on n'a pas trouvé d'objet.
Pour elle, il s'agit surtout d'un outil de dissuasion.
Je suis pas sûre qu'on arrive à tout détecter, hein, honnêtement. Nos appareils ont déjà 2 ans, par exemple, donc ça s'est déjà amélioré. Enfin, ça va très vite. On peut pas racheter tous les ans les appareils.
Ces appareils coûtent près de 500 euros et certains ne sont déjà plus opérationnels pour détecter un objet qui utilise le réseau 5G. Reste que la triche est lourdement sanctionnée. Interdiction de passer tout examen pendant 5 ans.
L'entourage d'Edouard Philippe assure qu'il répondra aux enquêteurs avec sérénité. Le parquet national financier a désigné hier un juge d'instruction pour mener des investigations sur des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme impliquant l'ancien Premier ministre. Aux fonctionnaires compétents ou simple copain du président, Emmanuel Moulin doit convaincre aujourd'hui les parlementaires, lui, qui est le candidat proposé par Emmanuel Macron pour prendre la tête de la Banque de France. Un long CV en Macronie sous le bras, directeur de cabinet à Matignon et au ministère des Finances, secrétaire général de l'Élysée. Sénateurs et députés doivent l'auditionner puis trancher, mais Sonia Gobry, les oppositions dénoncent soit du copinage, soit de la stratégie politique.
Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, pour le RN c'était déjà trop, alors un troisième fidèle d'Emmanuel Macron à la tête de la Banque de France, c'est non. Le député Jean-Philippe Tanguy y voit une manœuvre politique.
Monsieur Macron veut verrouiller nos institutions avec des personnes qui lui sont entièrement dévouées pour maquiller son bilan économique qui est le pire du pire, puisque entre autres missions, la Banque de France a un grand rôle de prévision et d'analyse de la conjoncture économique et budgétaire.
Comme le RN ou les socialistes, l'insoumis Éric Coquerel estime qu'il y a un problème d'indépendance.
Le fait que Emmanuel Moulin sorte directement de l'Élysée pour devenir gouverneur de la Banque de France en ayant cumulé depuis des années des postes politiques, moi ça me paraît totalement rédhibitoire.
Un procès d'intention, dénonce le macroniste Pierre Cazeneuve.
Dans ce cas-là, personne n'est qualifié. On devrait ne pas avoir d'idée pour aujourd'hui être nommé quelque part. C'est complètement abscon. Il faut regarder, je pense, uniquement la compétence. Est-ce qu'il va être ou non capable de porter et de défendre les intérêts de la France et de la Banque de France? Emmanuel Moulin a évidemment toutes les compétences.
Son sort dépend des sénateurs, les Républicains, et l'un d'eux confie que le groupe est divisé.
Une tournée maintenue mais amputée de 3 concerts. Québec a annulé la venue de Patrick Bruel compte tenu du contexte, disent les organisateurs, référence aux 12 plaintes en France pour viol et agression sexuelle qui ciblent le chanteur. Témoignage poignant des enfants de Laetitia à la barre hier. Cette femme qui accuse son mari, Guillaume Buchy, de l'avoir violée et forcée à la prostitution, le tout sur fond d'actes de torture durant 7 ans. Julie Bro, vous suivez le procès à Digne-les-Bains pour RMC. Les proches du couple ont tous décrit hier un accusé violent au sentiment de toute puissance.
Oui, parmi eux, le fils aîné de l'accusé, 17 ans, se souvient des coups d'un père autoritaire et colérique qu'il préfère désormais appeler monsieur plutôt que papa. Les violences verbales aussi, des mots qui, parce qu'ils touchaient à mon intégrité, faisaient plus mal que les coups, dit-il. J'étais sous son emprise, c'est un homme à qui j'avais peur de dire non, analyse l'adolescent. Un récit similaire à celui des voisins, amis ou ex-compagnes de l'accusé, révélateur d'un mécanisme pervers, soutient maître Philippe-Henri Honegger, avocat de Laetitia, la plaignante.
Chacun est venu dire à son tour, comment il avait à un moment ou à un autre vécu une situation d'emprise dans laquelle il a été enfermé par la violence et les menaces de cet homme. Donc ça vient dresser un portrait absolument terrifiant de celui qui est jugé, mais ça vient surtout étayer et confirmer ce qui a été raconté par Laetitia.
Aujourd'hui, des psychiatres vont à leur tour tenter de dresser le portrait de l'accusé, d'ores et déjà décrit dans certaines expertises comme dépourvu de tout remords ou empathie.
C'est l'annonce de la nuit. Donald Trump sera bien présent au prochain sommet du G7 en France, prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin. L'ambiance s'y annonce tendue après l'épisode des hausses de droits de douane. Le foot est premier titre de champion d'Angleterre pour Arsenal depuis 22 ans. Les Londoniens ont bénéficié du match nul de leur dauphin Manchester City hier soir et ils arriveront gonflés à bloc contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 30 mai. Avant ça, une autre finale, celle de la Coupe de France, ce sera vendredi soir, RC Lens OGC Nice au Stade de France, dont les tribunes seront largement aux couleurs des sang et or et sous haute surveillance, Nicolas Pelletier.
Oui, d'après nos informations, les autorités s'attendent à ce que plus de 40 000 supporters du RC Lens prennent place au Stade de France vendredi soir. Une partie des fans lensois va rejoindre la capitale à bord de 70 bus spécialement affrétés pour l'occasion. Une surveillance toute particulière aura lieu du côté de la gare du Nord où 5 trains en provenance de Lens doivent déplacer des milliers de supporters. Une vigilance pour éviter des incidents dans la capitale. Les services de police spécialisés ont émis la note de 3 sur 5 pour cette finale. En clair, ce match est considéré à risque. Selon des sources policières, autour d'une centaine de supporters lillois les plus sensibles pourraient prendre place aux côtés des fans niçois avec qui l'amitié est forte, avec pour seul objectif d'aller au contact des supporters du RC Lens.
Et cette finale, elle sera évidemment à suivre en direct sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 9, Carambar. Son outsider, le numéro 2, Joie du Carnois, le 9 et le 2.
C'était le journal de Victor Porchet. Il est 7h38, c'est l'heure de vous inscrire et de jouer avec nous. C'est le moment de tout tenter pour remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, babyfoot. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et repartez avec nos cadeaux. Pour pouvoir gagner, vous vous inscrivez tout de suite, vous envoyez liste au 7-32-16, liste au 7-32-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire et on sera en direct avec un gagnant à 8h20. Bonne chance à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des bâtiments qui tombent en ruine, des soignants débordés, épuisés, un système maltraitant, l'hôpital public craque. Et c'est votre constat, Nicolas Béraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal Le Parisien, vous avez mené l'enquête pendant 2 ans et vous publiez aujourd'hui Urgence vitale. C'est un livre enquête sur l'hôpital. Comment sortir de cette situation? On vous écoute dans un instant et puis on vous écoute aussi vous. Appelez-nous au 3216. Dites-nous, vous êtes soignant ou soigné à l'hôpital? Dites-nous votre quotidien, votre expérience. Venez donc témoigner. On vous attend au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 1300 établissements, plus d'un million d'employés, 100 milliards d'euros de budget. Voilà ce que constitue l'hôpital public aujourd'hui. Et pourtant, il est en crise. C'est ce qui ressort de votre enquête, votre livre enquête publié aujourd'hui. Bonjour Nicolas Béraud.
Bonjour.
Vous êtes chef du service adjoint pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes spécialiste des questions de santé et vous publiez Urgence vitale, pourquoi l'hôpital public
craque. C'est aux éditions Flammarion. 2 ans d'enquête, des centaines de personnes rencontrées, des dizaines d'hôpitaux visités. Comment on en est arrivé là, à des situations où, vous le racontez, c'est le bricolage permanent, un épuisement des soignants, tout un système qui est à bout, des infirmières qui achètent leurs gants en latex elles-mêmes, des médecins qui parfois doivent gérer 10 patients à la fois, des injonctions contradictoires auxquelles ils n'arrivent plus à faire face. Qu'est-ce que vous avez rencontré au long de vos 2 ans d'enquête ?
Bah déjà, je me suis lancé dans cette enquête parce que la crise de l'hôpital, en tant que journaliste santé, j'en entends tout le temps parler et j'écris des articles dessus, mais j'avais un petit peu du mal à comprendre véritablement ce que c'était, quelles en étaient les causes, les conséquences, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps d'enquêter, de rencontrer un maximum de gens, que ce soit des soignants, des médecins, des patients, mais aussi des directions, des responsables administratifs. Il y a plusieurs scènes, sans toutes les citer, mais qui m'ont particulièrement marqué. Il y a celles qui sont très connues, des patients qui restent sur des brancards pendant des heures, voire des jours entiers aux urgences. Je me rappelle notamment, ça m'avait frappé, une femme qui occupait un lit dans un service d'urgence à Paris, qui avait une démence en soi, qui n'avait rien à faire dans un monde idéal, dans un service d'urgence. C'était une, comme on dit, une belle bloqueur. Elle bloquait un lit aux urgences parce que le système dysfonctionne bien au-delà de l'hôpital. Il y a ces bâtiments décrépits. Alors d'ailleurs, c'est un paradoxe incroyable. À l'hôpital public, on y réalise des choses quand même extraordinaire, des opérations totalement dingues, des prouesses médicales avec des médecins de pointe, parce qu'ils sont pas du tout tous partis dans le privé, mais dans les mêmes hôpitaux ou parfois même dans les mêmes unités, vous avez aussi des bâtiments décrépits avec parfois des fils qui pendent du plafond, etc. Donc ça montre qu'il y a un vrai différentiel entre ce qu'on peut faire d'un côté et puis la réalité du quotidien. Donc voilà, c'est une crise qui est complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais les conséquences, elles sont bien visibles pour les soignants et pour les patients, évidemment, en bout de chaîne.
Les médecins, ils sont découragés, mais vous le dites, ils tiennent bon.
Les médecins et les soignants, de façon générale, je pense qu'il faut quand même saluer tout le personnel qui fait vivre tant bien que mal l'hôpital public aujourd'hui, les soignants, les médecins, mais aussi le personnel administratif, les directions, etc. Il tient bon, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand ? Il y a plusieurs médecins, plusieurs soignants qui m'ont dit c'est de plus en plus compliqué, on rogne de plus en plus, on est parfois moins un, moins deux au personnel, on ferme un lit, deux lits, cinq lits, dix lits, ça tient encore, on est résilient, mais on ne peut pas forcément garantir qu'on le restera.
Quand est-ce qu'on a basculé là-dedans ? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a basculé ? J'ai l'impression que quand on était enfant, nous, on nous disait que la France, c'était un Eldorado, qu'on était tous extrêmement fiers des infrastructures de soins. Quand est-ce que ça a basculé ? Quand est-ce qu'on est passé du soin comme moteur à une question désormais qui a l'air d'être plutôt des choix faits à cause du coût plutôt qu'à cause de l'efficacité du soin ?
C'est vrai, cette question du financement, elle est prégnante dans la crise que rencontre l'hôpital public aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça fait des années, voire des décennies qu'on en parle. Il y a plusieurs, quand même, moments marquants dans l'histoire. Il y a l'instauration du numerus clausus, notamment donc cette limitation du nombre de médecins formés chaque année, notamment à l'époque au XXe siècle pour des raisons économiques, parce que les médecins considéraient qu'en étant moins nombreux, ils pourraient avoir une patientèle plus importante et donc les médecins libéraux gagnaient plus d'argent. On s'est rendu compte qu'on avait trop réduit le nombre de médecins formés, donc on a totalement inversé la donne à la fin du XXe siècle, mais quelque part, une grande partie du mal était fait. Il y a eu le changement du mode de financement des hôpitaux. À une époque, il y avait une dotation globale, donc chaque année, on donnait une somme à chaque hôpital, quelle que soit l'activité qu'ils faisaient. Donc il y avait un peu, c'était pas forcément bien, parce que les hôpitaux qui voulaient faire beaucoup n'étaient pas forcément avantagés. Ça a été remplacé par cette fameuse tarification à l'activité que maintenant l'hôpital public, en tout cas certains services, sont principalement financés par ce système, à savoir que l'hôpital est rémunéré en fonction des patients qu'il reçoit. Donc ça peut inciter des dérives de faire sortir vite les patients pour en accueillir d'autres. Pour
Ceux qui rapportent moins et garder exactement ceux qui rapportent plus, en quelque sorte.
Ça a été documenté au point que Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait un changement du mode de financement pour passer à une partie TESA et une partie autre chose.
Est-ce qu'on soigne encore bien en France ? On a l'impression que ça tient à un fil. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Jean-Yves qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous habitez dans le Jura, je crois que vous êtes chargé d'affaires et votre femme a été hospitalisée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, donc tout à fait. Ma femme a fait un malaise à la maison il y a de ça un peu plus d'un mois. Et elle a été prise en charge par les pompiers sans problème. Elle a été amenée aux urgences. Aux urgences, le premier médecin qu'on a vu nous a parlé d'examens complémentaires qu'elle a été mise en place. Également une radio de la clavicule parce qu'elle était a priori cassée. Et il y a eu un changement de médecin pendant notre temps d'attente. Et le nouveau médecin qui est arrivé, du diagnostic en disant « bon, on va regarder, on va aller faire des examens complémentaires », c'est passé à « votre femme a fait une crise d'épilepsie ».
Ah d'accord, donc on est passé de clavicule cassée à crise d'épilepsie.
Voilà, et également donc une radio sur la clavicule. La clavicule, on nous a dit, c'est pas a priori, c'est pas déplacé, vous pouvez rentrer chez vous. Donc on est ressorti au bout de quelques heures, on est ressorti avec un traitement anti-épileptique lourd. Et également une radio, donc un contrôle de la clavicule à faire d'ici 10 jours. Et on n'a pas voulu rester comme ça. Le lendemain, la clavicule avait l'air d'être plutôt déplacée qu'autre chose. On est retourné voir notre médecin traitant. Et là, notre médecin traitant a pris peur. On a pu récupérer les radios qui avaient été faites. On est reparti des urgences sans les radios. On les a récupérées et il s'est avéré que, pour un défaut d'une clavicule peut-être déplacée, il y avait un déplacement de 2,5 cm de la clavicule.
Ah oui.
Oui.
Et l'épilepsie, c'était confirmé?
Et l'épilepsie n'a jamais été confirmée. Et elle a refait le traitement a été relativement lourd.
Est-ce que vous estimez, Jean-Yves, que c'est dû au débordement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu face à vous des médecins qui étaient tellement débordés? Alors,
je ne pense pas forcément au débordement, mais je pencherai plutôt pour la prise en charge, le défaut de prise en charge. À l'hôpital, aux urgences, ils ont traité a priori une certaine urgence, mais un diagnostic a été posé trop rapidement, sans prendre le temps, et la vraie, enfin pour nous, la vision qui aurait dû être faite, c'était d'une hospitalisation, voir pourquoi aujourd'hui, ça fait un mois et demi qu'elle a eu son malaise, aujourd'hui on n'a toujours pas de diagnostic de posé, la crise d'épilepsie, elle a arrêté son traitement parce que ça la minait, et aujourd'hui...
Et il n'y a toujours pas de diagnostic, c'est exactement une des questions justement qui se pose, Jean-Yves. Au fond, l'exemple de ce qu'a vécu Jean-Yves, Nicolas Béraud, c'est la question aussi de l'hospitalisation et du nombre de lits. C'est-à-dire que quand on a si on a des lits derrière, on se dit j'ai un doute sur ce diagnostic, je vais peut-être garder le patient une journée, deux journées pour pouvoir prendre le temps de poser un diagnostic. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce défaut de lit peut entraîner aussi des erreurs, une rapidité, des mauvais diagnostics posés.
Oui, parce qu'on parle beaucoup des urgences débordées. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elles débordent? Il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'entrants aux urgences, notamment parce que la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé, avec moins de médecins libéraux, notamment dans les campagnes. Donc il y a des gens qui vont directement à l'hôpital alors qu'ils auraient pu être pris en charge ailleurs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, si je puis dire, comme il y a eu beaucoup de fermetures de lits depuis le Covid, même si dans certains hôpitaux la tendance s'inverse, il y a moins de places pour accueillir des patients des urgences. Donc, il y a des patients qui sont toujours aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge dans un lit classique.
On fait comment? C'est-à-dire que vous y croyez malgré tout, et c'est aussi vraiment tout à votre honneur, c'est que non seulement vous voyez effectivement cet hôpital qui craque et dans lequel on bricole, mais vous estimez qu'on peut réussir à sauver l'hôpital?
Bien sûr, alors il y a plusieurs solutions. La crise est compliquée, il n'y a pas un facteur d'explication unique, de même qu'il n'y a pas une solution miracle, sinon ça se saurait. Mais il y a plusieurs pistes. Déjà, la priorité, je pense, ou l'une des priorités, c'est de redonner envie aux soignants, aux médecins de venir ou de rester bosser à l'hôpital public. Donc ça passe peut-être par de nouvelles revalorisations salariales, mais aussi par des choses, par exemple, aménager les temps de travail. On sait que les nouvelles générations de médecins, de soignants aujourd'hui n'ont plus forcément les mêmes attentes de ce point de vue-là que celles d'il y a 30-40 ans. Donc ça peut être des semaines avec moins de jours travaillés, mais des journées plus longues. Ça peut être d'améliorer la qualité de vie au travail en mettant fin à certaines pratiques qu'on constate toujours avec des chefs de service qui peuvent se comporter mal. En tout cas, c'est vécu comme tel par les jeunes médecins, les soignants. Donc ça, il y a aussi le côté à améliorer l'accès aux soins en dehors de l'hôpital, parce que comme je l'ai dit juste avant, la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé. Donc il faut mettre le paquet, si je puis dire, sur l'accès aux soins dans des maisons de santé, dans des cabinets de ville, etc. Et puis la prévention, parce que la meilleure façon de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital, c'est évidemment de ne pas tomber malade. Et la France, que ce soit sur la vaccination, sur le sport, sur l'alimentation, sur beaucoup, beaucoup de choses, elle pourrait mieux faire aussi de ce point de vue-là. Donc oui, il y a des raisons de croire qu'on peut sauver l'hôpital public, mais il faut agir et ne plus attendre.
Et il faut lire votre livre. C'est une véritable plongée aussi dans la réalité de cet hôpital public. Merci d'être venu nous délier votre enquête. Nicolas Béraud, chef du service adjoint au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et votre livre, ça s'appelle Urgence Vitale. C'est aux éditions Flammarion. Merci aussi à Jean-Yves pour son témoignage. Il est 7h52 et c'est la voix de droite, Louis Sarkozy, qui est entré dans ce studio. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Est-ce que la France a trop fait pour ses retraités?
C'est pas seulement qu'elle fait trop, c'est qu'elle est en train, la France, à petit feu, de tuer et d'assassiner sa jeunesse.
Ah carrément, on a fait le choix des vieux contre les jeunes.
À notre propre détriment.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h52.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord, le bonus. Mathieu Aristide, qui est devenu une valeur sûre économique. Ouais, vous allez me parler économie et pas musique.
Encore à battre le chanteur britannique qui va enchaîner 12 concerts au mythique stade de Wembley cet été. 12, c'est deux de plus que le précédent record détenu par Coldplay. Mais surtout, c'est un investissement plus que rentable. Avec cette résidence dans la capitale anglaise, Harry Styles va générer plus d'un milliard d'euros de retombées économiques. Plus fort que Taylor Swift ou même Oasis pour sa tournée de retour. C'est la banque Barclays qui a fait les comptes. Et oui, j'ai des correspondances avec des amis d'Emmanuel Le Chypre. La banque Barclays qui calcule les recettes et les retombées économiques. Hôtels, restaurants, transports, produits dérivés. Chaque fan dépenserait en moyenne près de 1000 livres pour vivre l'expérience Harry Styles. C'est comme
vous
ça qu'il l'appelle.
En l'appelant Harry Styles, je montrais bien que... En fait, moi, j'ai toujours un problème, je ne connais jamais leur nom. C'est-à-dire, j'adore ces musiques, mais je ne connais jamais leur nom. C'est ma façon à moi de résister.
Eh ben, je vous propose qu'on fasse une cagnotte et qu'on trouve 300€ pour les places en fosse pour Apolline. Voilà. Elle ira crier Harry Styles, Harry Styles. Et elle vivra l'expérience Harry Styles dont parle la banque Barclays.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est le jour de la voix de droite sur RMC parce que c'est mercredi et c'est donc vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous revenez sur l'alerte du gouverneur de la Banque de France. Pour François Villeroy de Gallo, la France devient une gérontocratie. Il estime que nos arbitrages collectifs ont été jusqu'à présent toujours en faveur des seniors. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En vérité, Apolline, les civilisations ne sont que rarement assassinées. Par contre, elles se suicident assez souvent. La France est en train, justement, de se suicider lentement, poliment, démocratiquement, mais sûrement. Et ce suicide a un nom, la gérontocratie. François Villeroy de Gallo a osé poser la question que tous les politiques connaissent et qu'aucun n'ose formuler. Bravo à lui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par gérontocratie ?
Alors, c'est parfaitement simple. La France dépense aujourd'hui 14% de son PIB en retraite. C'est un record mondial. Pour comparaison, l'Allemagne 10%, États-Unis 7%, Suède 9%. Et nos cotisations retraite ne suffisent même pas. Le système par répartition s'écroule sous son propre poids. L'État doit piocher pour le soutenir dans la TVA, dans la CSG, dans les impôts. Bienvenue en France. Quand vous achetez une baguette de pain, vous financez la retraite de quelqu'un d'autre. Or, les retraités français sont devenus la classe sociale la plus riche du pays. Plus haut taux d'épargne, plus haut patrimoine moyen, plus bas taux de pauvreté et taux de propriété immobilière de 75%. Pendant ce temps-là, juste pour comparer, 25% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ça la solidarité française ? D'assassiner nos jeunes ?
Enfin, c'est le principe même de la répartition. Les actifs qui payent pour les retraités, qui ont eux-mêmes payé avant eux.
Oui, enfin, ça c'est le contrat des années 70. Mmh. À l'époque, un retraité vivait 10 ans à la retraite et 4 actifs le financer. Aujourd'hui, un retraité vit 25 ans à la retraite et nous sommes à 1,7 actifs par retraité, bientôt 1,4. Le contrat a été rompu par la démographie et par la longévité, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Et vous savez qui paye pour cette fiction ?
C'est Nicolas qui paye. Vous allez me dire, c'est Nicolas qui paye.
Mais bien évidemment que c'est Nicolas, le jeune cadre, 35 ans, marié,
ce personnage créé par les réseaux sociaux.
Avec une grande justesse d'ailleurs, qui gagne sa vie correctement et qui, en additionnant impôts sur le revenu, charges, TVA, taxes foncières, taxes d'habitation, CSG, prélèvements divers et variés, donne plus de 50% de ce qu'il produit à l'État. Pour financer quoi ? Les pensions de la génération de ses parents. Nicolas, lui, ne sera jamais propriétaire à Paris. Il n'aura jamais une retraite équivalente à celle de ses parents. Et il vivra dans la difficulté toute sa vie parce que le système est organisé contre lui.
Pourquoi rien ne bouge politiquement ?
Alors là, écoutez bien, cher auditeur, je vous en conjure. Les retraités sont la première force électorale de France. 17 millions de retraités. 80% de taux de participation aux élections. Les moins de 30 ans, 50% d'abstention. Les politiques savent compter. Vous croyez vraiment que Le Pen, Bardella, Mélenchon vont aller dire à 17 millions d'électeurs qu'il faut baisser leur retraite, baisser leur pension ? Jamais. C'est pour ça que rien ne bouge. Soit les politiques mentent, soit ils ne disent rien. Dans les deux
Donc
cas,
on fait
c'est
quoi
criminel.
On fait quoi ? On baisse les retraites ?
Alors, pas toutes. Et c'est essentiel de le dire. Pas question de toucher aux petites retraites, bien évidemment. Un retraité à 1 200€ par mois qui a cotisé toute sa vie, c'est sacré. Mais les grosses pensions, sans hésiter, Apolline. C'est une question de survie. Il faut des plafonnements progressifs, des indexations différenciées et un effort de solidarité explicite. On ne demande pas aux retraités de souffrir. On leur demande de contribuer, comme les autres, à la solidarité nationale. C'est ça ou c'est le plan de sauvegarde du FMI dans 15 ans.
Et Louis Sarkozy, vous ferez la prochaine chronique sur la démographie peut-être et sur les bébés, parce que pour sauver la France, il faudra peut-être faire des enfants du coup.
Mais c'est absolument essentiel, et pas seulement pour le plaisir, Apolline. L'effondrement, si c'est l'inaction. La fécondité est à 1,62 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est le plus bas niveau hein, depuis 1946. Si rien ne change dans 30 ans, il y aura un actif pour un retraité. Le système s'effondrera mathématiquement. Et puis vous écoutez les jeunes Français ? Enfin, qui croit en ce pays aujourd'hui ? Ils partent. Ils partent à Londres, à Berlin, à Dubaï, à Lisbonne, à Montréal. Tous ceux qu'ils peuvent partent. Quand votre meilleure génération disparaît, celle qui devrait produire, innover et financer ce qu'il reste de notre système, vous tutoyez la mort.
La France se suicide. C'est donc la voix de droite qui nous le dit ce matin. Louis Sarkozy, merci à vous. Dans un instant, la météo du journal, 7h59. 8h passées de 1 minute. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La tournée de Patrick Bruel prévue cet été en France aura-t-elle lieu comme prévu? Ben vous verrez que c'est pas sûr du tout. RMC a interrogé les organisateurs de plusieurs dates. Il y a de l'embarras, conséquence des accusations de violences sexuelles. 3 concerts sont d'ores et déjà annulés au Canada. On va vous raconter dans le journal les coulisses de la venue de Donald Trump en France. Le mois prochain, il va participer au G7. Confirmation cette nuit, tout a été fait pour qu'il soit là. Et on ira à Londres au lendemain du sacre d'Arsenal en football, champion d'Angleterre pour la première fois depuis 22 ans. Et ça tombe à 10 jours aussi de la finale de Ligue des Champions contre Paris.
C'est donc au Canada que 3 concerts de Patrick Bruel ont été annulés.
Conséquence des accusations de violence sexuelle que conteste le chanteur. Mais dans ce contexte, 3 concerts qui étaient prévus en décembre sont d'ores et déjà annulés dans la ville de Québec. Alors Patrick Bruel reste programmé chez nous en France, dans une quarantaine de villes, pour une tournée qui va commencer à la mi-juin. Avec quand même un point d'interrogation. Inès Zegloul, vous avez interrogé pour RMC des organisateurs de plusieurs dates du chanteur. Et vous avez senti chez certains de l'embarras à l'idée de l'accueillir pour qu'il se lui sur scène.
Oui, exemple à Saverne dans le Bas-Rhin, le 18 juillet, le chanteur doit monter sur la scène du festival Les Alpagas Bleus, programmé depuis des mois et désormais, eh bien, on est pieds et poings liés. Voilà ce que me confie Sophie, la responsable communication de l'événement.
Le plus simple, ce serait de déprogrammer. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il existait une clause dans les contrats qui dit que dans ce genre de situation, on peut, oui, humainement, probablement qu'on l'aurait fait. Aujourd'hui, si on déprogramme, il faudra payer l'artiste. Et qu'en plus, il faut rembourser tous les gens qui voudront ne plus venir financièrement. Oui, c'est la remise en question de l'existence du festival même, quoi.
Alors, ils ont beau avoir retourné le problème dans tous les sens. Seule solution, nous dit Sophie.
Qu'il prenne la parole et qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il lui annule, je pense que ce sera plus simple pour tous les festivals, évidemment, oui, financièrement, oui, c'est sûr.
Alors, on l'entend, Inès Zegloul, il y a des collectifs féministes qui appellent les élus locaux à prendre là des décisions.
Hein. Oui, mais parmi les maires que j'ai pu joindre, aucun ne s'oppose frontalement à la venue du chanteur à Dijon ou encore à Laval. On prône la liberté de programmation, laissons faire la justice, présomption d'innocence, me répond-on à Vaison-la-Romaine ou encore à Salon de Provence. Eux renvoient la balle aux producteurs de spectacles qui avouent, eux, n'avoir jamais pensé à annuler les dates. Alors, les collectifs se mobilisent. Salon féministe par exemple, dont Mathilde en est membre.
On ne veut pas divulguer les détails, mais on planifie des choses. Et puis, dès vraiment, c'est de perturber, de dire qu'on est là, continuer avec cette programmation. C'est indécent.
Alors, seule décision en date en France, celle d'un sponsor près de Nice, un centre commercial local, partenaire du Beach Sport Festival qui s'est retiré de l'événement.
C'était le choix de la rédaction ce matin, signé Inès Zegloul pour RMC. On est à 1 an de l'élection présidentielle et Édouard Philippe prend acte des soupçons de détournement de fonds publics qui pèsent contre lui. Dans le cadre d'une enquête ouverte en 2024, on sait depuis hier qu'un juge d'instruction va se pencher sur ces soupçons autour donc d'un contrat entre la ville du Havre, dont il est le maire, et une animation numérique, contrat qu'aurait profité à une proche d'Édouard Philippe. Thomas Becker, du service politique à RMC, ce sont des faits qu'il conteste depuis le début, mais bon, ça tombe mal.
Oui, Édouard Philippe précise qu'il répondra à toutes les questions que posera la justice de façon très sereine. En toute sobriété, ça lui ressemble, glisse un de ses proches. Le favori du bloc central dans les sondages applique sa méthode, son style, ne rien laisser paraître, tracer sa route. Sauf qu'Édouard Philippe vient tout juste d'annoncer un grand meeting début juillet, censé marquer le début de sa dynamique vers l'Élysée. Alors forcément, son entourage en pleine opération mobilisation tente de déminer. Ce n'est qu'une poursuite automatique de la procédure. Sur le fond, il n'y a rien, affirme un cadre d'Horizon, un des membres de son équipe de campagne résume le triptyque qu'il anime, sérénité, calme, concentration. C'est avec ce caractère, assure-t-il, qu'Édouard Philippe avait déjà affronté la justice. Placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur la gestion du Covid, il avait finalement bénéficié d'un non-lieu.
Bon, vous avez entendu le Premier ministre Sébastien Lecornu. Hier, il nous a dit qu'il fallait s'habituer aux guerres hybrides comme celle au Moyen-Orient parce que ça va durer. Sébastien Lecornu dit ça à la veille, demain, donc, de faire des annonces pour les secteurs les plus touchés par la crise et notamment par la flambée des carburants. Donald Trump lui fait encore du Donald Trump ce matin en fixant un nouvel ultimatum à l'Iran qui a jusqu'à vendredi, samedi ou dimanche pour débloquer le détroit d'Hormuz. Bon, tout ça n'est pas précis du tout. Il les repousse toujours depuis le début de la guerre. Ce qui lui vaut d'ailleurs des moqueries aux États-Unis. Et alors, c'est dans ce contexte géopolitique que Donald Trump va venir en France le mois prochain. La Maison-Blanche a confirmé dans la nuit sa participation au G7 qui se déroulera à Évian-les-Bains. Il y avait un doute, Romain Houck, jusqu'à cette nuit. Donc, c'était pas sûr qu'il fasse le déplacement. Et tout a été fait d'ailleurs pour qu'il soit là.
Oui, Emmanuel Macron le supplie d'y aller. C'est ce qu'affirmait il y a deux semaines un haut responsable de l'administration américaine. Les dates de ce G7 ont donc été décalées rien que pour lui. Le sommet devait commencer le 14 juin, mais Donald Trump n'est pas disponible. Pourquoi ? Eh bien, c'est son anniversaire, 80 ans. Le président américain compte bien le fêter en grande pompe à la Maison Blanche avec carrément une grande soirée de combat MMA organisée dans les jardins. Bref, Donald Trump a d'autres choses à faire. Le G7 commencera donc le lendemain. Et là, l'ambiance sera sûrement un peu moins à la fête. Les relations entre Donald Trump et les autres pays du G7 sont détériorées ces derniers mois sur fond de droits de douane et de guerre en Iran. Donald Trump ne manquant jamais une occasion pour tacler ses partenaires européens sur le plan commercial, militaire ou diplomatique.
Et alors, l'avenue du président américain à un sommet comme ça du G7, c'est un événement, évidemment. Ça s'accompagne d'une sécurité monumentale et c'est même pas exagéré de dire ça.
Oui, il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2019 à Biarritz. C'est le dernier G7 organisé en France. Donald Trump était déjà présent pour sécuriser l'événement. Toute une partie de la ville complètement bouclée, armée mobilisée et 13 200 policiers et gendarmes engagés. Trois matchs de Ligue 1 avaient même été reportés pour libérer des effectifs. À Évian, dans un mois, ce sera la même chose. Une vaste zone ne sera accessible que sur présentation d'un pass G7. Certains établissements scolaires fermés, des lycéens vont même devoir passer des épreuves du bac dans une ville voisine, mais aussi des lignes de train suspendues, une zone d'exclusion sur le lac Léman et même le scellage de toutes les bouches d'égout.
Alors pendant ce temps, c'est à Pékin que se déroulait cette nuit un nouveau sommet entre puissants Xi Jinping qui recevait Vladimir Poutine avec le même cérémonial que pour Donald Trump il y a une semaine. La Russie voulait en fait s'assurer que la Chine n'était pas en train de la lâcher pour les États-Unis. On se demande ce matin comment vont les supporters d'Arsenal en football. Ils ont explosé de joie hier soir en remportant le championnat d'Angleterre. Vous entendez là, ça faisait 22 ans que les Gunners, c'est leur surnom, attendaient ça. Ils ont profité en fait du match nul de leur rival Manchester City hier soir pour être sacrés. Clément Brossard, vous êtes à Londres en direct ce matin pour RMC envoyé spécial. Ils ne pouvaient pas rêver mieux les Anglais pour préparer la finale de la Ligue des Champions contre Paris dans 10 jours.
Oui, Quentin, l'exploit est retentissant. Il fait la une de la presse anglaise ce matin. Les fans d'Arsenal peignent le nord de Londres en rouge, écrit le Daily Mail. Ils étaient des milliers à célébrer le titre devant l'Emirates Stadium jusqu'à tard dans la nuit. Klaxons, fumigènes, feux d'artifice, beaucoup de pleurs. Aussi fini l'étiquette de loser qui leur a souvent été collée dessus. Ils ont chanté à la gloire de leurs joueurs, de leur entraîneur aussi, Mikel Arteta, ancien joueur d'un PSG qu'il retrouvera dans 10 jours pour la finale de Ligue des Champions à Budapest. Il va pouvoir ce week-end, pour la dernière journée de championnat, mettre à l'abri des blessures ses cadres, préparer avec sérénité ce dernier rendez-vous de la saison. On veut écrire l'histoire, disaient les fans hier soir, faire le doublé, gagner notre première Ligue des Champions. Un vent de confiance va donc entraîner Arsenal jusqu'à Budapest, où le PSG affrontera une équipe soulagée d'un poids énorme et prête à rendre cette saison encore plus inoubliable qu'elle ne l'est déjà.
Clément Brossard en direct de Londres ce matin pour RMC. Tiens, il y aura la première finale européenne de la saison ce soir, celle de la Ligue Europa entre les Allemands de Fribourg et les Anglais d'Aston Villa. C'est la sixième finale quand même dans cette compétition pour l'entraîneur espagnol Unai Emery. Il en a fait une spécialité et il l'a déjà remporté 4 fois.
Et c'est l'heure de l'économie. Merci pour ce journal, Quentin Vinet. Manu Le Chypre est rentré dans le studio.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, c'est un beau succès pour l'industrie de l'armement française. Pour une fois qu'on peut dire cocorico, la Suède va acheter 4 frégates à Naval Group.
Oui, un contrat estimé à 4 milliards d'euros sur un marché de l'armement en pleine ébullition dans un monde qui se réarme. Le cas de la Suède est emblématique, hein. C'est le plus gros investissement militaire depuis les années 1980 pour la Suède. Ce marché en pleine croissance est aussi un marché hyper concurrentiel puisque Naval Group a essuyé récemment plusieurs revers, Rien qu'au cours des derniers mois, la Norvège a retenu l'offre britannique pour ses frégates au détriment du français. Le Canada n'avait pas voulu de ses sous-marins non plus. Les Polonais avaient choisi un sous-marin suédois, mais Naval Group a donc réussi à vendre aussi ses sous-marins aux Pays-Bas et à l'Indonésie. Naval Group avait enregistré en 2025 un niveau record de prise de commandes. 2026 sera aussi une année faste pour l'entreprise et ses 17 000 salariés.
17 000 salariés. L'armement, aujourd'hui, c'est finalement le gros point fort de l'industrie française.
Ah bah c'est le secteur dans lequel la France est le plus compétitif aujourd'hui, avec peut-être le luxe et les vins et spiritueux. 4 000 entreprises tirées par une quinzaine de grands groupes, hein, dont Dassault Aviation, Thales, Safran, Naval Group, MBDA, deuxième exportateur mondial d'armement derrière les États-Unis, présent sur tous les segments du marché, des avions aux sous-marins et tous leurs armements et équipements électroniques. Le principal défi de l'industrie de la défense française, c'est de répondre à une demande en plein boom, et y compris une demande de la France elle-même, puisque l'actualisation de la loi de programmation militaire adoptée hier par les députés porte ses dépenses militaires à 436 milliards d'euros d'ici 2030. C'est 36 milliards d'euros de plus qu'initialement prévu.
Emmanuel, comme tous les jours sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend?
Bah, ça monte, hein, quand vous avez le pétrole qui reste au-dessus de 110 dollars le baril depuis le début de la semaine. Le gazole reprend 5 centimes par rapport à la semaine dernière, 2,16 €. Le sans-plomb 95 continue à aligner les centimes en plus au fil des jours. On est à 2,05 €. Le pétrole toujours tendu, donc, et puis le gaz toujours sur une trajectoire ascendante depuis deux semaines.
Ah bah, dis donc, je poserai la question tout à l'heure à Bruno Le Maire, de savoir si on n'est pas quand même, franchement, à un moment, faut peut-être le dire, dans ce vrai choc pétrolier que tout le monde redoute de nommer. Il est 8h12.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on vous a parlé de cet hôpital qui craque ce matin, mais c'est aussi vous qui nous en parlez à travers vos messages.
Oui, c'est de votre expérience dont vous parlez, de longs messages, des récits que vous nous faites sur votre expérience avec l'hôpital public. Je pense à Frédéric qui nous dit « J'ai failli perdre la vie après un passage aux urgences 2015, pas de diagnostic posé, retour aux urgences une semaine après, opération en urgence suite catastrophique, prise en charge tardive. » Voilà ce que nous dit Frédéric de son expérience à l'hôpital. Je paraphrase un peu parce que vous racontez votre expérience. Comme Hervé, dont l'ex-femme venait d'accoucher deux mois après des douleurs. On lui a expliqué que c'était les suites de l'accouchement, les restes de la péridurale. Elle y retournait trois fois. La quatrième, je l'ai accompagnée, j'ai tapé du poing sur la table et le chirurgien a expliqué que sa vésicule biliaire était sur le point d'exploser, sous diagnostic qui revient souvent dans vos messages ce matin, comme Alexis qui dit que sa mère est arrivée aux urgences avec un mot de son médecin qui indiquait qu'elle faisait un AVC. Ils l'ont laissé repartir chez elle. On est ressorti le lendemain. Eh bien, elle a des problèmes aux yeux aujourd'hui des suites des conséquences de cet AVC mal diagnostiqué. Voilà ce que nous écrit Alexis sur le WhatsApp RMC.
Vos messages, vous continuez évidemment à nous écrire. Dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire. Le face-à-face, ce sera Bruno Le Maire. Et juste après, face à Canteloup, comme tous les jours, 8h50, Nicolas Canteloup sera en direct sur RMC. 8h14, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h15 sur RMC pour notre plus grand plaisir. Arnaud Demange est avec nous. Salut Arnaud.
Oui, bonjour Apolline Matin.
Oui, bonjour.
Bonjour toute l'équipe d'Apolline Matin.
Bonjour,
ça va bien? Ce matin, j'ai envie de vous faire rêver. J'ai envie de vous vendre du rêve. Alors je vous emmène dans les paillettes du Festival de Cannes. Car le maire David Lisnard a demandé à la police cannoise d'accentuer la lutte contre le trafic de drogue. Et ça, c'est inhumain, Apolline. C'est pas bien. Interdire la drogue à Cannes pendant le festival, c'est horrible. J'en ai parlé à Dominique Besnard.
Bien sûr.
Il m'a dit, ça va plus être pareil. Si vous regardez à jeun un film polonais de 3 heures en noir et blanc sur un schizophrène hermaphrodite en milieu rural pendant l'occupation russe, à jeun, c'est pas le même plaisir du tout. En fait, ça paraît plus long. Essayez-vous, hein. Essayez de regarder un film des frères Dardenne. Vous savez, les réalisateurs qui arrivent à rendre la Belgique encore plus déprimante qu'elle l'est déjà. Vous vous rendez compte, un producteur français qui prend pas de drogue, mais il va lire les scénarios. C'est pas possible. Il y a plus aucun film qui va sortir. Sinon, il y a toujours l'affaire de la tribune anti-Bolloré. Les signataires sont toujours dans le viseur de Canal et ils sont tous à Cannes. Et Charles Alloncle, le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est toujours caché dans les buissons pour mener l'enquête. Pascal,
Jean-Pascal Zadi, il a signé la pétition et il a dit que Vincent Bolloré, il était méchant.
Mais quelle ingratitude. Vincent Bolloré qui a financé son film sur des cosmonautes noirs et il crache dans la soupe. En plus, on avait adoré le scénario. Des noirs qui partent en fusée dans l'espace et qui reviennent pas. On avait trouvé ça formidable. On voulait même financer l'épisode 2, 3, 4, 5, 6. C'était une excellente idée.
Et même que...
Calmez-vous, Charles.
Et même que Artus... Eh ben Artus, il a une jupe. Vous avez vu les photos ? Il a une jupe, comme une fille, mais en barbu. Et du coup, je savais même plus s'il fallait être excité ou dégoûté.
Oh,
et voilà. Mais est-ce que Vincent Bolloré porte des jupes ou des robes ? Non. Bon, sauf pendant les vêpres au monastère de la Sainte Inquisition, mais c'est particulier. Ça n'est pas à Vincent de payer les jupes d'Artus.
Oui, vous avez raison, Pascal. Le maître ne doit pas payer. Non, non, il faut protéger le précieux argent de Canal+. Il faut tuer le cinéma français. Juliette Binoche, il faut la tuer, comme sa carrière. Tue-la. Sauve le précieux.
Arnaud, face au virus Ebola, l'OMS déclare l'urgence internationale.
Oui, cette semaine, allez, on change de maladie. Et le gagnant est le virus Ebola. Le virus Ebola qu'on avait pu admirer en 2014. Un virus qui avait connu un pic de popularité en Europe, mais qui vite retombé, mais qui poursuit une belle carrière en Afrique. On écoute Ebola. J'aimerais remercier mon agent infectieux, ma famille d'adoption. Bon, ils sont tous morts, mais ils ont fait beaucoup pour moi quand même. Voilà, le hantavirus, c'est déjà has-been.
Bien sûr.
Rendez-vous compte que Sanofi a même pas eu le temps de développer un vaccin.
C'est fou.
En même temps, ils en ont toujours pas trouvé un contre le Covid. Alors, par contre, pour Ebola, ils avaient le temps.
Oui.
C'est juste que c'est pas rentable.
Ah oui.
C'est l'Afrique. Et vous savez ce qu'on dit. En Afrique, ils ont pas de montre, mais ils ont le temps d'attendre un vaccin Sanofi. Ils ont du temps devant eux.
BFM Business a publié un article. Faut-il investir dans une vache?
Oui, Apolline, voilà une bonne question que vous pourrez poser à Bruno Le Maire dans un instant.
Oui.
Vache ou pas vache? Alors, le site My Margaret propose à des épargnants d'investir dans des vaches laitières et ça rapporte 5% 89 d'intérêt. C'est ce qu'on appelle une vache à lait. Ah là là. Alors, le prix d'une bête, c'est actuellement 2 316 €. Et voyons ce qu'on en dit à BFM Business où on retrouve Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre.
Banquier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler investissement crévin-lieu. Car on peut investir dans les vaches, n'est-ce pas, Emmanuel Le Chypre?
Tout à fait, Edwige. Alors, est-ce un bon placement?
Mais oui, c'est un bon placement, Chouminou. Et tu sais quoi?
Chouminou.
Je l'ai fait, Crémildiou. J'ai investi dans une vache, tu te rends compte? C'est quasiment 6% de rendement. Avec cet investissement, on pourra enfin se... Emmanuel, c'est quoi cette tache sur ta cravate?
C'est rien, Moumoune.
Ne me dis pas que t'as déjà mangé ma vache.
Désolé. Visiblement, j'ai un peu bouffé nos économies. Mais rassure-toi, on a eu la même idée. Moi aussi, j'ai investi. Regarde, je l'ai appelé Angela.
Oh, cachotier, t'as fait pareil que moi. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Emmanuel, si tu me rejoignais dans le foin...
Oh non.
Oh, Edwige. Vous voyez, l'amour est dans le pré à taux zéro.
Oh, Chouminou, si on donnait à Bruno Le Maire, qui nous écoute en loge, sa prochaine idée de roman hot.
Oh oui.
Oh là là, que de chaleur.
Oh.
Allez, à demain et bonne interview de Bruno Le Maire.
Oui, bah bien sûr, là,
bah
c'est
oui.
Ouf. Allez, c'était Arnaud Demanche, qu'on retrouve tous les jours en podcast ou en tournée.
Oui.
Il sera à Aix-en-Provence, à Nice, à Chambéry, à Saint-Riquier, au Garric, à Gaillac, à Morières, les Avignons, ou à Reims.
Toute la campagne.
RMC, ça ressemble à une campagne politique. Il est 8h21, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Une tournée toujours maintenue, mais amputée désormais de 3 concerts. Québec a annoncé hier soir annuler la venue de Patrick Bruel compte tenu du contexte, disent les organisateurs, référence aux 12 plaintes en France déposées pour viol et agression sexuelle qui ciblent le chanteur. L'entourage d'Édouard Philippe assure qu'il répondra aux enquêteurs avec sérénité. Le parquet national financier a désigné un juge d'instruction hier pour mener les investigations sur des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme impliquant l'ancien Premier ministre. Donald Trump sera bien présent au prochain sommet du G7 en France. Il est prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin, annonce de la Maison-Blanche cette nuit. L'ambiance s'y annonce tendue après l'épisode des hausses de droits de douane. Justement, les eurodéputés et l'Union européenne ont trouvé un arrangement cette nuit pour mettre en œuvre le dernier accord commercial voulu par Donald Trump. En résumé, l'Europe accepte de faire des concessions pour limiter les surtaxes américaines à 15%. De premières mesures de précaution contre Ebola à Mayotte, le gouvernement français a mis en alerte les autorités sanitaires. L'hôpital local est aussi sommé de se préparer à accueillir d'éventuels cas de la maladie, maladie qui sévit surtout en ce moment en République démocratique du Congo. Le foot est une info qui va vous intéresser, supporters parisiens. Premier titre de champion d'Angleterre pour Arsenal depuis 22 ans. Les Londoniens ont bénéficié du match nul de leur dauphin Manchester City et arriveront gonflés à bloc contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et puis la météo, journée de transition aujourd'hui, mais matinée très nuageuse, de la pluie en allant vers la Manche et les frontières du Nord. Des éclaircies vont ensuite gagner quasiment tout le pays. Côté température, elle remonte 17 à Brest, 19 à Rouen, 21 à Paris, 23 à Clermont, 26 à Montpellier et 28 à Perpignan.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est Bruno Le Maire. Et franchement, la France va pas au top. Retour de l'inflation, chômage qui remonte et croissance en berne. Qu'est devenue la France et quels seraient les remèdes de Bruno Le Maire? À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Ça faisait un petit bout de temps que je ne vous avais vu. Vous revenez avec ce livre, Le temps d'une décision. C'est aux éditions Gallimard. Vous avez évidemment été à la tête de Bercy pendant 7 ans. Et dans ce livre, il y a quelque chose d'assez douloureux qui est de voir que la décision politique, on y reviendra, vous apparaît de plus en plus difficile à prendre. Avec évidemment une question, dans ce cas, si c'est pas les politiques qui décident, qui décide de notre sort? Je vous poserai évidemment la question, mais j'ai regardé les chiffres ce matin. La situation, honnêtement, est très mauvaise. La dette, vous connaissez, on va y revenir. Ça vous colle à la peau, cette fameuse étiquette, l'homme aux 1000 milliards de dettes. Vous vous en défendez, vous nous le direz dans un instant. Mais ce matin, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés passent au-dessus des 4%. C'est du jamais vu depuis 2009. Aux États-Unis, ces taux sont aussi au plus haut depuis 2007. Est-ce qu'on est dans une zone de danger?
On est face à un risque de choc économique et financier majeur dans les mois qui viennent. Si la crise dans le détroit d'Ormuz poursuit, cette envolée des taux est directement liée à l'augmentation des prix du pétrole qui est liée au blocage du détroit d'Ormuz. Donc soit il y a une solution diplomatique que je souhaite dans les semaines qui viennent et tout cela se dégonflera et s'apaisera. Soit à l'inverse, la crise se poursuit, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Cela provoquera à nouveau une augmentation des prix du pétrole, une augmentation des prix de l'alimentation, un risque de crise alimentaire aussi, puisque vous avez une augmentation très forte du prix des intrants, et à terme, de vraies difficultés économiques. Ça se traduit par une envolée des taux qui pèse évidemment sur la charge de la dette, ce qu'on a payé chaque année pour la charge de la dette.
Ça veut dire qu'on est dans une spirale ?
Ça veut dire que nous sommes face à un risque de choc économique et financier majeur. Mais je pense que tous nos compatriotes ont parfaitement conscience de ça. Au-delà de ce choc économique et financier possible, vous avez aujourd'hui un risque industriel. J'en parle beaucoup dans mon livre, en montrant les surcapacités chinoises, la détermination de la Chine à être le premier producteur industriel mondial et le premier producteur technologique. Si l'Europe ne réagit pas très rapidement pour protéger nos frontières, pour mettre en place des tarifs contre les biens industriels chinois pour assumer une vraie préférence européenne, pas une préférence européenne qui est étendue au Canada et à tous les partenaires commerciaux
de
l'Europe.
Parce que c'est le cas aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a une logique totalement folle. Je recevais ce matin l'un des spécialistes de cette entreprise qui ne verra pas le jour à Fos-sur-Mer. Ça devait être 3000 emplois, une entreprise de panneaux solaires qui meurt notamment de ces décisions européennes de ne pas assumer un fabriqué en Europe parce que le label fabriqué en Europe, il pourrait être donné par exemple à des panneaux solaires qui sont faits au Vietnam.
Mais c'est totalement
révoltant. C'est totalement délirant.
Enfin, ce qui a été décidé par la Commission européenne, cette fausse préférence européenne qui est élargie à tous les partenaires commerciaux européens. Donc, c'est comme si la Chine ou les États-Unis disaient, nous on défend nos produits industriels chinois ou américains, mais comme on a un accord commercial avec l'Europe, l'Europe pourra en bénéficier. Mais jamais la Chine, jamais les États-Unis ne feraient ça. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller, pour assumer une vraie préférence européenne, une vraie protection à nos frontières avec des tarifs douaniers?
Je l'ai obtenu. Protectionnisme.
Bien sûr. Mais la personne que vous avez en face de vous, non seulement l'a assumée, mais l'a décidée. Nous avons été les premiers à obtenir qu'il y ait des tarifs douaniers qui soient mis en place pour compenser les subventions que la Chine a versées aux véhicules électriques chinois. Ces tarifs sont encore insuffisants, il faut les élever, il faut assumer une vraie préférence européenne réservée à l'Europe, au continent européen et aux entreprises européennes. Il faut utiliser le levier des marchés publics pour privilégier la production européenne.
J'aimerais bien comprendre quand même, c'est-à-dire que l'Europe c'est devenu un frein?
Mais c'est pas un frein, c'est un de nos outils majeurs.
Ouais, enfin là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est quand même une situation
opérer
ubuesque.
Une véritable révolution idéologique, pour comprendre que le modèle, et c'est là aussi ce que je défends dans le livre, le modèle sur lequel nous vivons depuis 1957, le libre-échange, l'ouverture de nos frontières, le doux commerce.
C'est fini.
C'est fini.
Mais c'est pas
mort.
Assumé. Et c'est d'ailleurs ce que vous
mais
dites.
Il faut l'assumer.
Vous dites, on est...
Et le rôle d'un responsable politique aujourd'hui, c'est pas d'être...
Vous racontez qu'on est un peu au milieu du gué. En
oui,
fait, on
n'est
plus dans
gué.
Le modèle d'avant, mais on n'a pas non plus assumé que les choses avaient changé.
Vous avez tout
et donc,
à fait
on
raison.
Est les dindons de la
c'est
farce.
La bonne expression. Et donc, vous êtes au milieu du gué, en général, si vous êtes au milieu des courants, et vous êtes ballotté de ci, de là. Le rôle d'un responsable politique aujourd'hui, plus que jamais, face à une inquiétude considérable de nos compatriotes, que je comprends, sur l'industrie, sur l'économie, sur l'emploi, c'est de se projeter à 25 ans et de se dire, est-ce qu'on peut réussir? Ma réponse est oui. Comment pouvons-nous réussir? En changeant de modèle et en refondant complètement le modèle économique français et le modèle économique européen. Et la refondation du modèle européen, c'est tout simplement assumer de jouer avec les mêmes règles que les Américains et les mêmes règles que les Chinois. On défend nos intérêts économiques bec et ongles avec de la protection, de la préférence européenne et des marchés publics qui sont réservés aux produits européens.
En priorité pour nous, Bruno Le Maire, demain, Sébastien Lecornu va tenir une conférence de presse avec notamment la question des aides ou non, vous le disiez. On va au-devant potentiellement d'un véritable choc économique. Il y a déjà une forme de choc pétrolier avec les prix à la pompe qui continuent à monter, qui sont repartis à la hausse. Est-ce qu'il faut aider ou est-ce qu'il faut taxer?
Taxer, c'est un mot que j'essaye de retirer de mon vocabulaire. Quand j'étais ministre des Finances, nous n'avons jamais augmenté les impôts. Nous avons garanti une stabilité fiscale qui est indispensable pour les ménages
vous avez creusé la dette.
Comme pour les entreprises.
Donc, vous n'avez pas non plus beaucoup baissé les dépenses.
On n'a sans doute pas suffisamment baissé les dépenses, mais nous avons garanti cette stabilité fiscale qui a donné quoi comme résultat pour une de Malherbe? 2,5 millions d'emplois créés, 120 000 emplois industriels, de la croissance, une attractivité financière qui faisait de nous le pays le plus attractif.
Mais comment vous expliquez alors qu'on soit reparti au-dessus des 8% de chômage?
Parce que nous avons changé de politique. C'est aussi simple que cela. Notre politique économique de 2017 à 2024, elle a marché. On peut tout contester, on peut critiquer ce qui a été fait sur les finances publiques, sur la dette. Il y a plein de choses qu'on peut critiquer, c'est la démocratie. Et la critique est toujours bonne à prendre. Mais ce que je crois profondément, c'est que la politique que nous avons engagée en matière économique en 2017, soutenir les entreprises, donner la visibilité fiscale, soutenir l'industrie, c'est-à-dire de la création de valeur sur notre territoire. Le bilan au bout de 5 ans, c'était de l'emploi, quasiment le plein emploi, des usines qui rouvraient, de nouvelles filières industrielles comme les batteries électriques à Dunkerque et une France qui faisait rêver tous les investisseurs. Ça a été abandonné, cette politique. On a augmenté l'impôt sur les sociétés, on a fait une surtaxe à l'IS, on a abandonné la baisse des impôts de production. Mais le résultat, il est inéluctable. Vous changez de politique, vous perdez vos résultats.
Il restera quoi? Il restera quoi du macronisme?
Ça, ce sera aux historiens de juger. Je suis acteur politique, je ne suis pas historien.
Vous l'êtes encore, vous définiriez encore votre rôle aujourd'hui comme acteur politique?
Bien sûr, je suis un acteur de la vie publique. J'essaye de porter ce que peut être demain la France, l'Europe, ouvrir des perspectives, poser des débats pour que les prochaines échéances soient réussies. Si nous voulons que les prochaines échéances électorales soient réussies, il ne faut pas que cette prochaine élection présidentielle soit une élection par défaut. Le sujet, ce n'est pas d'ériger des digues contre les extrêmes, c'est d'ouvrir un chemin pour les Français. Ça ne doit pas être une élection contre, ça doit être une élection pour. Ça ne doit pas être une élection par défaut, ça doit être une élection d'ambition pour un peuple et pour un pays qui a tout pour réussir.
Vous avez dit d'ailleurs, Bruno Le Maire, que vous n'étiez pas candidat à la présidentielle, que ce n'était pas cette logique-là. Pourquoi vous avez écrit ce livre, du coup?
Pour dire aux Français, voilà où nous en sommes, voilà le monde dans lequel nous sommes. Je discute beaucoup avec mes enfants, j'ai 4 enfants. Parfois, ils me posent la question, mais c'est quoi le monde actuel? Pour le faire comprendre, j'ai voulu dans ce livre dire, regardez le monde actuel. Vous avez quelqu'un, il s'appelle Trump, il dirige les États-Unis d'Amérique. Voilà comment il est, voilà comment il négocie.
Vous racontez les coulisses des G7.
Le président chinois, vous voulez savoir comment il décide, vous voulez savoir comment il se comporte lors d'un G20, vous voulez savoir comment est-ce qu'il discute avec un président de la République. Ouvrez mon livre et regardez comment
ça
se décide.
Vous racontez plus Trump que Macron d'ailleurs. C'est quoi? C'est parce que vous vous dites, je veux pas tirer sur une ambulance?
Parce que les Français connaissent bien Emmanuel Macron, ils connaissent peut-être moins bien Donald Trump. Et j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger à plusieurs reprises avec lui. Je pense que c'est très important que les Français comprennent la dérive des États-Unis d'Amérique et à quel point il est devenu donc urgent maintenant de nous séparer des États-Unis d'Amérique.
Vous ménagez Emmanuel Macron. Pourtant, on s'en souvient, il y a eu des moments où pour vous, alors que vous estimiez que les choses allaient très mal, qu'il fallait par exemple revoir le budget, il ne vous a pas écouté. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi vous le protégez?
J'entends beaucoup de critiques sur le président de la République. Il y a deux raisons qui font que je refuse de m'inscrire dans cette logique de critique systématique du président de la République. La première, elle est très simple. C'est que quand on a travaillé pendant 7 ans comme ministre des Finances avec un président de la République, la plus élémentaire des dignités, c'est de reconnaître ce qu'on lui doit.
Bien sûr, donc vous ne ferez pas partie de ces ingrats. On reproche beaucoup à Gabriel Attal.
Mais il y a une deuxième raison, vous savez.
J'en vois beaucoup qui veulent
tuer le père. Moi, j'ai une chance, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas mon père en politique. Je suis né en politique avant Emmanuel Macron, très précisément avec Jacques Chirac. Je me suis engagé en politique pour Jacques Chirac, avec Jacques Chirac, au moment de la crise en Irak en 2003. Donc, j'ai pas besoin de tuer le père. Mon père en politique, c'est Jacques Chirac, ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais je le redis, il y a une question aussi de dignité. Vous avez servi pendant 7 ans.
Vous trouvez ça indigne, ceux qui aujourd'hui en font...
Mais chacun est libre. Comme dans un pays libre.
Mais pardon,
rien n'est plus important pour moi que la liberté.
Vous allez vous engager,
mais
vous l'avez
ma liberté,
dit,
c'est d'éviter les critiques
vous
inutiles.
Vous soutiendrez qui?
Et je rajoute un argument qui est important. À force d'accabler un homme, on ne voit pas que le véritable problème, c'est que le modèle français est devenu un anti-modèle. Ce modèle dans lequel la production est délaissée au profit de la consommation. Ce modèle dans lequel le travail est plus taxé que tout, ce qui décourage tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont un salaire. Ce modèle dans lequel on ne sait plus qui dirige quoi, où il y a une confusion complète des responsabilités. Ce modèle, il doit être transformé. Je le redis, il faut une refondation.
Je vous reposerai la question de savoir qui vous soutenez, mais quand vous dites on ne sait plus qui dirige quoi, on ne sait plus non plus, et c'est vraiment aussi le cœur de votre livre, qui décide et comment les décisions sont prises. Qui décide?
La réponse que j'apporte dans mon livre, elle est simple. Les régimes autoritaires, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, les géants de la tech, qui ont une influence considérable, et là aussi, si l'Europe n'est pas capable de créer ses propres géants de la tech, ses propres semi-conducteurs, je travaille aujourd'hui pour une entreprise de semi-conducteurs, sa propre intelligence artificielle, ses propres stockages de données, de toute façon, nous serons une colonie numérique des États-Unis et de la Chine. Donc si nous voulons décider par nous-mêmes, il faut mener la bataille technologique. Écoutez ce qu'a dit Arthur Mensch,
le patron de Mistral,
à la Commission des Affaires économiques.
Il a
tout
fait un constat
manière...
désastreux sur mais la situation et les bâtons dans les roues qu'on met en France et en Europe.
Si je pouvais prendre maintenant mon rôle de conseiller de l'entreprise ASML, la plus grande entreprise de tech en Europe, pour laquelle je travaille depuis 2 ans, je reprendrais mot pour mot ce qu'a dit Arthur Mensch.
Dites-le.
Nous faisons tout pour torpiller les technologies européennes et françaises en étant incapables de mettre l'innovation avant la régulation, en ne prenant pas les risques nécessaires et en n'ayant pas le courage d'investir de la dette en commun. J'ai fait de la dette en commun pour protéger nos compatriotes face à la crise du Covid. Il est indispensable de faire de la dette en commun demain pour financer l'innovation, la lutte contre le changement climatique.
Mais avouez que c'est assez cocasse de l'entendre de votre part.
Ben, c'est pas cocasse, je l'ai fait.
Vous avez fait.
Non mais, Bruno de Malherbe, c'est pas cocasse.
Mais les choix fondamentaux, Bruno Le Maire, dans votre
choix fondamental de la dette en commun,
il faut changer d'organisation. Mais ça, vous l'avez pas fait.
Mais j'étais ministre des Finances, j'étais ni Premier ministre ni Président de la République.
Oui, mais ça, mon rôle n'est pas. Bah non, mais moi, ça, c'était pas moi, c'était
mais
Macron.
J'assume toutes mes responsabilités sur la dette. Toutes mes responsabilités sur les choix économiques que nous avons faits et sur
entendu,
les résultats qu'ils ont donnés.
Vous avez entendu le constat de François Villeroy de Galhau. François Villeroy de Galhau, qui juste avant de quitter son poste de gouverneur de la Banque de France, dit, au fond, le drame aussi de notre pays, c'est que par exemple, on n'a jamais osé faire les vrais choix parce que c'est une gérontocratie, qu'on a choisi toujours de protéger les plus âgés, la retraite, qu'on n'a pas fait le choix de l'innovation, qu'on n'a pas fait le choix des jeunes. Ça, vous étiez aux manettes là-dessus.
Mais nous avons fait des choix fondamentaux. Quand en 2017, on fait les choix fiscaux qui ont été les nôtres, baisser l'impôt sur les sociétés, faire une flat tax à 30%, baisser l'impôt sur les ménages, c'est des choix fondamentaux. Quand nous décidons de réformer l'assurance chômage, c'est un choix absolument fondamental. Quand nous relançons l'apprentissage,
il y a beaucoup qui a été détricoté là depuis
quand nous mettons en place le produit d'épargne retraite, c'est moi qui l'ai créé. 13 millions aujourd'hui de souscripteurs, 150 milliards d'économies qui ont été faites, c'est le début d'une retraite par capitalisation. C'est un choix que j'ai fait. Donc nous avons fait des choix fondamentaux. Est-ce qu'ils sont suffisants ? Non. Parce que maintenant, nous devons passer à une véritable refondation sur des bases qui soient plus saines de notre modèle éducatif, de santé, de production et économique.
Je mentionnais la Banque de France à l'instant. Un mot, parce que c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Moulin devra convaincre aussi notamment les parlementaires de pouvoir devenir le futur gouverneur de la Banque de France. Dans votre livre, vous en parlez comme d'un ami. C'était l'ancien secrétaire général de l'Élysée, mais il a d'abord travaillé dans votre cabinet, Bruno Le Maire. Vous trouvez que c'est un bon choix ? Vous trouvez que c'est le bon moment ?
Je trouve que c'est un très bon choix. C'est le bon moment. De toute façon, il s'impose à nous, puisque le gouverneur actuel, François Villeroy de Galhau, à qui je rends hommage et qui a fait un super job, a décidé de servir dans le domaine social. C'est tout à son honneur. Il faut le remplacer.
Auprès des orphelins d'Auteuil.
Et Emmanuel Moulin est, à mes yeux, un homme qui a rempli toutes les conditions pour être un très bon gouverneur de la Banque de France.
Emmanuel Moulin à la Banque de France.
C'est les parlementaires qui le décident.
Oui. Il décide, il valide ou il valide pas.
Il décide quand même. Ouais.
Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Emmanuel Moulin à la Banque de France. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas souhaité ou vous n'avez pas pu ou qu'est-ce que vous en pensez vous de cette idée de basculer à la tête de grandes institutions ? Vous n'auriez pas voulu vous ?
Non. Moi, je suis attaché plus que tout à ma liberté. Et je considère que quand vous avez servi à un moment donné, il est bon d'aller voir autre chose. J'ai démissionné de la haute fonction publique. Je dis dans mon livre qu'il faut mettre fin à la monarchie technocratique, c'est-à-dire tous ces gens qui pensent savoir mieux que personne ce qui est bon pour le pays, mais qui refusent d'écouter le peuple français. La refondation, c'est aussi une refondation politique, dont le principe de base sera d'écouter et de consulter les Français. Ça fait 20 ans, à peine de Malherbe.
Consulter les Français,
ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un référendum en France. Et si nous avions des résultats extraordinaires, si nous
vous
avions le plein emploi, l'industrie carbone, mais je suis pour une pratique très régulière du référendum, au niveau national comme au niveau local, y compris avec l'initiative citoyenne, pour que le peuple puisse participer à la définition de son destin. La logique sur laquelle nous vivons depuis des décennies, où il y a des gens qui vous disent « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, je vais décider, je suis la raison et vous, vous êtes l'ignorance », c'est devenu insupportable et ça crée une fracture morale entre les dirigeants politiques et le peuple français. Le premier enjeu des années qui viennent va être de résorber cette fracture morale entre le peuple français et ses dirigeants politiques. Et pour moi, la seule façon de la résorber, c'est de redonner la parole au peuple, de les consulter. Parce que le peuple sait ce qui est bon, sait ce qui est nécessaire. Et il faut parier toujours, toujours sur son intelligence. Il faut beaucoup aimer les Français.
Vous voyez
et il faut leur faire beaucoup confiance.
Vous êtes finalement quand même assez optimiste. Certains disent que le deuxième tour, ce sera RN-LFI, les deux extrêmes. Est-ce que c'est le même péril ? Est-ce que vous imaginez ça, cette situation ?
Bon, je ne crois pas du tout. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de moindre mal. Ce sont deux mots. Je rappelle qu'en 2024, quand il y a une élection législative, tout le monde s'est précipité pour dire qu'il faut voter LFI contre le RN. Moi, j'ai refusé ce choix. J'ai dit, on fait pas le choix du moindre mal. Quand on aime profondément son pays, qu'on aime profondément les Français, ce qui est mon cas.
Les deux sont des périls à égalité.
Les deux sont des dangers. Donc j'ai refusé en 2024 et j'assume cette position politique d'avoir refusé d'appeler à voter pour la France insoumise. Car c'est un danger pour le pays, c'est le communautarisme, c'est la division et c'est un antisémitisme larvé qui est contraire à notre culture nationale. Mais j'ai la conviction profonde que si nous savons changer totalement nos pratiques politiques, refonder ce qu'est la démocratie française sur la base
d'une
simplification de l'organisation, tout est possible.
Vous avez commencé, comme vous le dites, avec Jacques Chirac. Vous savez aussi que c'est une question d'incarnation. Qui vous soutiendrait ?
Et c'est beaucoup trop tôt pour savoir qui soutenir. Voyez bien que les idées sont même pas posées. Qui aujourd'hui défend, comme je le fais, une refondation complète de notre modèle politique ? Simplifier l'organisation, supprimer le département pour qu'il fusionne avec les régions, savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi, avoir un président qui préside et un premier ministre qui gouverne, avoir 10 ministres définis dans la Constitution et pas un de plus, avoir un parlement qui pour 50% vote des lois et qui pour 50% contrôle, parce que ce que je constate, c'est qu'on a dit qu'on allait mettre fin à l'inflation normative. Mmh. Regardez les derniers chiffres qui sont tombés, il n'y a jamais eu autant de normes. Donc là aussi, consultons le peuple français. Prenons le code de la construction, le code de l'environnement, le code du travail. Simplifions-les en 6 mois et les nouveaux codes simplifiés, vous les soumettez à référendum des Français.
Ça fait un programme. Merci Bruno Le Maire d'avoir répondu à mes questions ce matin. Le temps d'une décision, votre récit et vos solutions, c'est chez Gallimard. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bruno Le Maire était l'invité du Face à Face. Il est toujours avec nous. Rebonjour, monsieur.
Oh là là. Mes pauvres, mais quel bordel ce pays en ce moment. Heureusement que je me suis barré, madame de Malherbe. J'ai une chance. Quand je pense que je vais être ministre de la Défense du gouvernement Lecornu, souvenez-vous, en temps de guerre. Et non, là, je suis peinard à vous parler de mon livre. Oh, quand même, le bol que j'ai eu. Hein. Vous avez lu mon livre? Ouvrez mon livre, madame de Malherbe. J'explique tout dedans, pourquoi que j'ai tout bien fait.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça.
J'explique Xi Jinping, j'explique Donald Trump, oui, parce que moi, je suis de ce niveau-là.
Oui. Hein,
et en conseil économique, il y a même une super recette de cheesecake. J'explique tout, je vous dis.
Oui, on le lit, on le lira. Sébastien Lecornu doit annoncer aujourd'hui des nouvelles aides sur le carburant. Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Qu'est-ce que je ferais ? Ben, je ferais des chèques. C'est dans mon livre.
Oui, ben c'est ça. Ben, c'est nos enfants qui vont payer.
Mais justement, mais vous avez vu les gamins d'aujourd'hui ? Ces petits cons, hein ? Ils sont mal polis, ils sont scotchés devant leur écran. Ils vous calculent même pas. Ils lèvent même pas la tête pour vous dire bonjour. Et nous, on s'emmerde à les élever. Mmh. Ils peuvent quand même rendre service, hein ? Mmh. Ranger leur chambre, oui. Débarrasser la table, rembourser la dette. Merde.
Ouais, il y a quand même un inconvénient. Vous faisiez des chèques à tout le monde. Le résultat aujourd'hui, c'est que les caisses sont vides quand même.
Mais Apolline de Malherbe. Arrêtez sans arrêt de me parler des caisses vides. Moi, je suis venu vous parler de mon livre.
Oui, bien.
Parce que mon truc à moi, c'est pas les chiffres, c'est les lettres.
Oui.
Okay. Donc, merci de faire la promo de mon livre, Le temps d'une décision. Je rappelle le titre chez Gallimard. Comme ça, pour une fois, c'est mon économie à moi qu'on va aider à relancer.
Oui, hein.
Et franchement, quand je vois la façon dont mon successeur, Roland Lescure, gère le business, il aurait besoin de le lire, mon livre, franchement.
Si vous savez ce qu'il faut faire, bah pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez ministre, je veux dire ?
Écoutez, je vais être très franc avec vous.
Ah oui, allez-y, c'est le moment.
J'ai remarqué un truc. Mmh. Dès qu'on n'est plus ministre, on devient tout de suite beaucoup plus compétent.
Ah oui.
Plus inspiré dans le domaine dans lequel on était ministre. On écrit des livres sur le sujet, on enseigne, on devient consultant, limite le messie. Mmh. Mais je suis sûr que ça marche dans d'autres domaines, tenez. Dès que Habib Bey se sera fait virer de son poste d'entraîneur de l'OM, hein, après avoir pris tant de branlées instantanément, il va devenir meilleur technicien,
oui.
Meilleur tacticien, et vous allez l'embaucher, ça se trouve, à Rotten sans flamme, hein, où il va donner des conseils à tout le monde, alors que c'est la plus grosse truffe de la Ligue 1. Et je précise que là, s'arrête la comparaison avec moi.
Bien sûr, merci Bruno Le Maire. Gérald Darmanin souhaitait également dire un petit mot à Bruno Le Maire.
Oui, tout à fait. Bonjour Madame Malherbe et bonjour à Bruno qui est un ami, on est important que ça dans la politique. Écoutez, j'arrive à l'instant d'Algérie et j'ai eu de très bonnes nouvelles.
Ah.
Christophe Glaize va être bientôt libéré. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, il y a de bonnes échanges et c'est Bruno Le Maire qui non. sera le bon échange.
Non.
Mais quelque part, c'est juste très bonne nouvelle pour lui. Regardez l'impact de la détention en Algérie de Monsieur Boualem Sansal. Ça a complètement boosté les ventes du livre de Boualem Sansal.
Oui.
Hein,
oui.
Et force est de constater que Bruno est aujourd'hui un grand homme de lettres. Donc, croyez-moi, une petite année en incarcération en Algérie sera un bien meilleur tremplin pour sa carrière littéraire que de se lever à 6h du matin pour se farcir une interview avec vous.
Oh, bah, ça va, là, doucement.
Mais détendez-vous, Belherbe. Ça va bien se passer. Oui, j'aime bien rejouer mes plus grandes répliques du cinéma.
Merci, monsieur Darmanin. Et tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Et non, on ne retrouve pas ce cher Thibaut Texer. On retrouve Jean-Jacques. Oui, comme au bon vieux temps.
Oh, quel plaisir.
Pardon, je sais que vous me regrettez, Apolline. Pardon d'intervenir, mais vous avez vu Thomas Soto quitte, le grand Thomas Soto quitte RTL. Et donc, je dis oui, j'accepte de prendre sa place. Vous savez que les auditeurs me manquent, mais surtout, je manque aux auditeurs. Mais sachez qu'il se passe pas. Eh oui, Laurent Neumann, il se passe pas une journée sans que quelqu'un me dise au volant de taxi ou accoudé au comptoir d'un PMU, Jean-Jacques, quand reviens-tu? Alors oui, j'ai 66 ans, mais j'assume, car justement, comparé aux auditeurs d'RTL, je suis un gamin. Allez, ce matin, c'est moi qui vous fais les titres.
Jean-Jacques, quel plaisir.
Festival de Cannes, polémique toujours, et oui, polémique toujours autour de Canal+, qui ne veut plus financer les films des signataires de la fameuse tribune. Et oui, à Cannes, 33 ans après le succès à Liste de Schindler, c'est une autre liste qui fait parler, la liste de Bolloré. Et puis football, et oui, parce qu'RMC, ce n'est pas qu'une radio de gonzesse, suivez mon regard. On ne parle pas que chiffon et maquillage. Et oui, à surprise générale, c'est Neymar, le grand Neymar, qui a été appelé par l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde. Et oui, la mode est au retour des anciens. C'est une tendance forte, j'espère que la direction d'RTL a bien eu l'info.
On leur dira.
Parce que faire des interviews sur réseaux sociaux pour 15 pelés qui regardent, c'est pas mon truc. À vous, Apolline.
Merci, Jean-Jacques. Allez, on parle de foot. Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, ça y est, la liste est sortie. Kylian me l'a envoyé en temps et en heure, donc c'est bon.
Attendez, c'est Kylian Mbappé qui choisit les joueurs sélectionnés en équipe de France?
Comment ça? Ben oui, comme d'habitude depuis 4 ans.
Ah oui?
Oui, bon, on voit que vous ne suivez pas vraiment le foot. Hein,
oui, ça doit être ça.
Oui, c'est ça. En fait, au début, il ne m'a pas envoyé une liste complète. Il m'a juste envoyé un post-it avec juste son nom dessus.
Ah oui?
Bon, on a échangé un peu ensemble et j'ai réussi à faire comprendre à Kylian que le football est un sport collectif et que même si j'ai totalement confiance en son talent individuel, je pense que c'est préférable qu'il soit 11 sur le terrain plutôt que lui tout seul.
C'est sa décision, finalement.
Et bon, comme c'est un garçon intelligent, après plusieurs mois de discussion, il a compris et il m'a envoyé une deuxième liste.
Ah bah tiens, vous avez reçu un SMS, je crois.
Ah oui, ah non, c'est Kylian. Oui. Non, il me prévient qu'il a choisi Zidane pour me succéder.
Ah oui,
non, vraiment, ça fait plaisir de voir un joueur aussi impliqué dans l'avenir de l'équipe de France.
Oui. Encore un SMS.
Oui, c'est quand Lilian, pardon, du joli. Non, c'est rien. Oui, non, il veut juste que je lui prépare des penées à la Arrabbiata pour ce soir. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un joueur qui fait aussi attention à la diététique,
ah oui,
ça fait du bien.
Oui. Encore, je crois,
SMS. Oui, c'est encore lui, décidément. Attendez, je vais devoir vous laisser là parce que Kylian voudrait que je promène son chien. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui se soucie autant du bien-être animal, ça fait plaisir.
Décidément.
Non, ça c'est rien, c'est Kylian encore. Oui. Ah non, il m'envoie juste le sommaire des grandes gueules de M. Martin.
Non. D'accord.
Non, franchement, ça fait tellement plaisir de voir un joueur qui s'intéresse comme ça autant aux sujets sociétaux de notre société avec une vision comme ça à 360, je sais plus là. C'est Kylian qui me dit à 180 degrés. Oui, parce que je me souvenais plus de la température.
On n'est pas venus. Merci Nicolas, pas 58 tous les matins, 8h50. Et le vrai programme des GG, Alain.
Oui, bonjour à tous. Déjà le retour d'une grande gueule historique, Johnny Blanc, chef d'entreprise fromager dans les Deux-Sèvres, qui sera avec nous, avec Sandrine Pégan, l'avocate, avec Emmanuel De Villiers, le chef d'entreprise. La crise va durer, nous dit le ministre de l'économie, à la veille du dispositif d'aide du Premier ministre Sébastien Lecornu. Mais franchement, est-ce qu'on attend du gouvernement ou est-ce qu'on se démerde par nous-mêmes, nous les Français, face à la crise et les carburants? 32-16 pour venir en discuter avec les GG.